Nous allons donc, il est 20h06, nous allons donc ouvrir la séance. Et je vais commencer par l'appel nominal des conseillers. Enzi Jean.
Présent.
Arnaud Michel. Présent. Arnaud Odile.
Présent.
Barouin Dolores.
Présent.
Biaise Michel.
Présent.
Baumler Laurent.
Présent.
Brouillard René.
Présent.
Carpentier Annie.
Présent.
Kérol Evelyne.
Présente.
Clos Marie. Absente. Pouvoir à Nicolas Gagzinski. Coulet Dominique. Absente. Pouvoir à Christophe Lamy. Cournille Jean-Jacques.
Présent.
Dumont Laurence. Fagot Edwige, absente, pouvoir à Annie Carpentier. Floury Patrick, absent, pouvoir à Lisiane Grosbon. Fourdrin Stéphanie. Gagzinski Nicolas.
Présent.
Grosbon Lisiane.
Présent.
Lamy Christophe.
Oui. Ah, c'était pas prévu. Hein.
Le Mercier Jean-Claude, absent. Merlin Marie-France.
Présent.
Panier Francis.
Présent.
Rabé Philippe, absent. Raguido Cécile, absent. Pouvoir à Odile Arnoux. Raoui Ferrugia.
Présent.
Sauvage Patrick, absent. Stéphane Patrick.
Présent.
Présent. présents, le quorum est donc atteint et la séance sera valide. Qui se propose comme secrétaire de séance ? Monsieur Laurent Baumler. Monsieur Laurent Baumler, secrétaire de séance. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Laurent Baumler, secrétaire de séance, à l'unanimité. Donc les pouvoirs reçus, je répète, Clos-Marie à Nicolas Gagzinski, Coulet-Dominique à Christophe Lamy, Fagot-Edwige à Annie Carpentier, Floury-Patrick à Lisiane Grosbon et Raguido-Cécile à Odile Arnoux. Voilà, donc 5 pouvoirs. Lecture de l'ordre du jour. Donc après l'élection du secrétaire de séance auquel nous venons de procéder, il y aura l'approbation du procès-verbal des délibérations du dernier conseil municipal, la lecture de la décision du maire numéro 7, et ensuite nous attaquons les points proprement dits de l'ordre du jour, la stratégie locale pour la gestion du risque inondation, la vente d'un local professionnel, la vente d'un véhicule, le taux de promotion par grade des agents communaux, une modification du tableau des effectifs, désaffectation d'un local à l'école maternelle, une convention pour la fourrière automobile, une convention de mise à disposition d'installations sportives rue des Moulins. Ensuite, une délibération concernant le repas de Noël pour les seniors. Et ensuite, les questions diverses auxquelles viendront s'ajouter quelques éléments d'information. Bien, donc, premier point. Approbation du procès-verbal des délibérations du Conseil municipal du 8 septembre 2016. Qui avez-vous des remarques, des questions ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Donc, le procès-verbal des délibérations du Conseil municipal du 8 septembre 2016 est approuvé à l'unanimité. Entrée de M. Jean-Claude Lemercier à 20h11. Bonjour Jean-Claude. Décision du maire numéro 7. Bien, c'est donc un processus qui a été commencé il y a un certain temps, de reprise de concessions abandonnées. Donc, Monsieur Michel Arnoux, maire de Verberie, vu le code général des collectivités territoriales, vu la délibération du conseil municipal du 25 avril 2014 relative aux délégations accordées aux maires, vu le procès verbal de constatation d'abandon de concession en date du 17 novembre 2010, établi par l'agent de police judiciaire adjoint, assermenté près le tribunal de grande instance de Senlis, dûment agréé par M. le préfet de l'Oise et M. le procureur de la République de Senlis, vu le deuxième procès-verbal de constat d'abandon de concession en date du 2 octobre 2014, établi par l'agent de police judiciaire adjoint, assermenté près le tribunal de grande instance de Senlis, dûment agréé par M. le préfet de l'Oise et M. le procureur de la République de Senlis, vu les notifications aux intéressés effectuées, vu les affichages effectués pendant un mois du 1er au 31 décembre 2010, du 14 janvier au 13 février 2011, du 1er au 31 mars 2011 et du 8 octobre au 10 novembre 2014, décide la reprise par la commune des concessions abandonnées ci-dessous, listées, et autorise Monsieur le maire à faire le nécessaire à cet effet. Donc il s'agit des... Donc je suis parti pour un peu de lecture là. Concession numéro 122 à côté du caveau communal, attribuée par acte en date du... Alors, il y a l'année 1917, et dans laquelle a été inhumé M. Thérèse. La dernière inhumation étant celle de M. Thérèse Gaston en date du 25 juin 1917. Concession numéro 7 du carré 1, rangée 1, attribuée par acte, en date du 1er mai 1966, sous le numéro 1087, et dans laquelle a été inhumé M. Paulin Louis, la dernière inhumation étant celle de M. Paulin Louis, en date du 17 juin 1965. Concession numéro 47, du carré 1, rangée Tour, attribuée par acte en date du 29 novembre 1949, sous le numéro 845, et dans laquelle ont été inhumées la famille Truffaut-Bourgoin, la dernière inhumation étant celle de Mme Bourgoin-Julie, en date de l'année 1949. Concession numéro 353 du carré 1, rangée, Tour, attribuée par acte en date du 11 mars 1942, sous le numéro 711, et dans laquelle ont été inhumées la famille Machon, Lavacry-Blondeau, la dernière inhumation étant celle de Mme Mahon-Marguerite, en date inconnue. Concession numéro 355 du carré 1, rangée Tour, attribuée par acte en date du 22 juin 1936, sous le numéro 628, et dans laquelle ont été inhumées la famille Favot-Marius, la dernière inhumation étant celle de Mme Marie Favot, en date du 2 juin 1936. Concession numéro 362 du carré 1, rangée Tour, attribuée par acte en date du inconnu, et dans laquelle ont été inhumées la famille Graillet et Eck, la dernière inhumation étant celle de Mme Anna Eck en date de l'année 1935. Concession numéro 390 du carré 1, rangée Tour, attribuée par acte en date du 21 août 1939, sous le numéro 667, et dans laquelle ont été inhumées la famille Serre-Lagan, la dernière inhumation étant celle de M. Louis Sert en date du 21 août 1939. Concession numéro 392 du carré 1, rangée Tour, attribuée par acte en date du 14 mars 1962, sous le numéro 712 et dans laquelle ont été inhumées la famille Pétieux-Mahon, la dernière inhumation étant celle de M. Laurent Mahon en date du inconnu. Concession numéro 395 du carré 1 rangée Tour, attribuée par acte en date du 21 avril 1938, sous le numéro 647 et dans laquelle ont été inhumées la famille Bergeron-Paulin-Léon, la dernière inhumation étant celle de Madame Marie Léon en date de l'année 1945. Concession numéro 10 du carré 2 rangée numéro 3, attribuée par acte en date de l'année 1958 et dans laquelle ont été inhumées la famille Campagnol, la dernière inhumation étant celle de M. Campagnol en date du 14 août 1958. Concession numéro 11 du carré 2 rangée 3, attribuée par acte en date inconnue et dans laquelle a été inhumée inconnue, la dernière inhumation étant celle de inconnue. Concession numéro 442 du carré 2, attribuée par acte en date du 4 septembre 1946 sous le numéro 779 et dans laquelle ont été inhumées la famille Cosneroy, Marie, la dernière inhumation étant celle de Madame Marie Cosneroy en date de septembre 1945. Concession numéro 444 du carré 2, attribuée par acte en date du 18 avril 1940 sous le numéro 680 et dans laquelle ont été inhumées la famille Brunet-Leborne, la dernière inhumation étant celle de Madame Elisabeth Brunet en date d'avril 1940. Concession numéro 347 du carré 2, attribuée par acte en date du 6 juillet 1938, sous le numéro 651 et dans laquelle ont été inhumées la famille Fontaine, la dernière inhumation étant celle de Madame Carton, née de Mazure, en date de l'année 1936. Concession numéro 451 du carré 2, attribuée par acte en date du 25 mars 1943, sous le numéro 722, et dans laquelle ont été inhumées la famille Pétieux, la dernière inhumation étant celle de M. Pétieux en date inconnue. La concession numéro 99 du carré 3, attribuée par acte en date du 6 novembre 1945, sous le numéro 767, et dans laquelle a été inhumé M. Auguet Antoine, la dernière inhumation étant celle de Mme Anaïs Auguet, en date de l'année 1943. Concession numéro 503 du carré 3, attribuée par acte en date du 30 mars 1926, sous le numéro 528, et dans laquelle ont été inhumées la famille Charnot de Poisier-Gervais, la dernière inhumation étant celle de M. Joseph Gervais, en date inconnue. Concession numéro 4 du carré 4, rangée 2, attribuée par acte, en date inconnue, et dans laquelle ont été inhumées la famille Julien Choron, la dernière inhumation étant celle de Madame Élise Choron, en date de l'année 1942. Concession numéro 12 du carré 4, rangée 1, attribuée par acte, en date du 14 novembre 1944, sous le numéro 743 bis, et dans laquelle ont été inhumées la famille Dameron-Richaudeau, la dernière inhumation étant celle de Madame Marie Richaudeau en date de l'année 1966. Concession numéro 20 du carré 4 attribuée par acte en date du inconnu sous le numéro 236 et dans laquelle ont été inhumées la famille Roque-Lambotte, la dernière inhumation étant celle de inconnu en date inconnue. Concession numéro 412 du carré 4 rangée Tour, attribuée par acte en date du 11 juillet 1947 sous le numéro 789 et dans laquelle ont été inhumées la famille Charlot Moutonnet, la dernière inhumation étant celle de Madame Charlotte Charlot en date du 24 juillet 1958. Concession numéro 416 du carré 4 rangée Tour, attribuée par acte en date du 26 septembre 1939 sous le numéro 670 et dans laquelle a été inhumé M. Capel Arthur, la dernière inhumation étant celle de M. Capel Arthur en date de l'année 1924. Concession numéro 539 du carré 4 attribuée par acte en date du 25 mars 1943 sous le numéro 724 et dans laquelle ont été inhumées la famille d'Absence, la dernière inhumation étant celle de M. Yvon d'Absence en date du 25 mars 1943. Concession numéro 541 du carré 4 attribuée par acte en date du 29 août 1927 sous le numéro 541 et dans laquelle ont été inhumées la famille Caron-Busserolles, la dernière inhumation étant celle de M. Busserolles en date de l'année 1949. Concession numéro 108 du carré 5 attribuée par acte en date du 18 février 1944 sous le numéro 732 et dans laquelle ont été inhumées la famille Cuinière-Bélanger, la dernière inhumation étant celle de M. Émile Bélanger en date de l'année 1932. Concession numéro 110 du carré 5 attribuée par acte en date du 2 juillet 1953, sous le numéro 904, et dans laquelle ont été inhumées la famille Laurent-Thérèse, la dernière inhumation étant celle de Inconnu, en date inconnue. Concession numéro 135 du carré 5, attribuée par acte en date du 28 septembre 1913, sous le numéro 408, et dans laquelle ont été inhumées la famille Luc-Paul, la dernière inhumation étant celle de Inconnu, en date inconnue. Concession numéro 136 du carré 5, attribuée par acte en date du 13 juillet 1914, sous le numéro 414, et dans laquelle ont été inhumés M. Devaux Eugène Rancurel Joséphine, la dernière inhumation étant celle de Mme Joséphine Rancurel en date de l'année 1929. Concession numéro 146 du carré 5, attribuée par acte en date du inconnu, et dans laquelle ont été inhumées la famille Geraud Rambercourt, la dernière inhumation étant celle de M. Henri Geraud en date de l'année 1914. Concession numéro 150 du carré 5, attribuée par acte en date du 8 février 1927, sous le numéro 535, et dans laquelle ont été inhumées la famille Paillard-Personne-Lefebvre, la dernière inhumation étant celle de Henri et Marie Paillard, en date de l'année 1936. Concession numéro 156 du carré 5, attribuée par acte en date du inconnu, et dans laquelle ont été inhumées la famille Vico-Lenoir, la dernière inhumation étant celle de Madame Marie Lenoir, en date du 12 août 1927. Concession numéro 161 du carré 5, attribuée par acte en date du 20 septembre 1921, sous le numéro 473 et dans laquelle ont été inhumées la famille Saint-Van-Marc, la dernière. Concession numéro 162 du carré 5, attribuée par acte en date du 20 juin 1921, sous le numéro 469 et dans laquelle ont été inhumées la famille Philippon-Picard, la dernière inhumation étant celle de Jean et Alexandré Picard en date de l'année 1921. Concession numéro 174 du carré 5, attribuée par acte en date du 17 juin 1936, sous le numéro 469, et dans laquelle ont été inhumées la famille Delvoye L. Cardon, la dernière inhumation étant celle de Madame Berthe Delvoye en date du 31 mars 1971. Concession numéro 60 du carré au fond à gauche, attribuée par acte en date du 29 octobre 1958, sous le numéro 994 et dans laquelle ont été inhumées la famille Gantois-Alexandre, la dernière inhumation étant celle de Madame Lucie Gantois en date du 8 novembre 1998. Concession numéro 61 du carré au fond à gauche, attribuée par acte en date du 7 mai 1864, sous le numéro 111 et dans laquelle ont été inhumées la famille Bidot-Anaïs, la dernière inhumation étant celle de Monsieur Nicolas Bidot en date du 14 décembre 1905. Concession numéro 202 du carré au fond à gauche, attribuée par acte en l'année 1885, et dans laquelle ont été inhumées la famille Jourdain-Mathieu, la dernière inhumation étant celle de Inconnu en date inconnue. Concession numéro 204 du carré au fond à gauche, attribuée par acte en date du 13 août 1905, sous le numéro 309, et dans laquelle ont été inhumées la famille Carbonnier-Roussel, la dernière inhumation étant celle de M. Edmond Carbonnier en date du 12 août 1903. Concession numéro 206-207 du carré au fond à gauche, attribuée par acte en date du 13 août 1958 sous le numéro 990 et dans laquelle ont été inhumées la famille Sibiel Agut, la dernière inhumation étant celle de Inconnu en date inconnue. Je fais une pause.
Il y en a combien ?
Bon, ça y est, c'est bon. La majorité est passée.
Encore deux pages.
Et j'avoue que je ne m'étais pas rendu compte de l'exercice dans lequel je me lançais. Mais bon.
Il y en a une, ça fait quand même pas vieux, 98, j'ai entendu aussi, 1998, ça fait pas vieux. Là. Oh bah non, non, laisse tomber.
La procédure a été appliquée.
Oui, j'ai plus mon été, il doit tout refaire.
Concession numéro 206-207, ah, celle-là j'ai déjà fait, donc on va passer. Concession numéro 211 du carré au fond à gauche, attribuée par acte, en date du 3 octobre 1904, sous le numéro 318, et dans laquelle a été inhumé M. Jourdain-Louis, la dernière inhumation étant celle de M. Jourdain-Louis en date de l'année 1882. Concession numéro 213 du carré au fond à gauche, attribuée par acte en date du 20 septembre 1965 sous le numéro 1076, et dans laquelle ont été inhumées la famille Ferco-Mahon, la dernière inhumation étant celle de M. Louis Mahon en date du 29 avril 1884. Concession numéro 215, du carré au fond à gauche, attribuée par acte en date du 20 septembre 1965 sous le numéro 1076 et dans laquelle a été inhumée Madame Agut-Émilie, la dernière inhumation étant celle de Madame Agut-Émilie en date du 21 mars 1977. Concession numéro 307, du carré au fond à gauche, attribuée par acte en date du 13 août 1942 sous le numéro 709 et dans laquelle ont été inhumées la famille Évrard-Cantrel-Martin, la dernière inhumation étant celle de Madame Judith Lemaire en date du 16 février 1908. Concession numéro 308, du carré au fond à gauche, attribuée par acte en date du 20 octobre 1941 sous le numéro 696 et dans laquelle ont été inhumées la famille Lemaire-Évrard-Geoffroy, la dernière inhumation étant celle de inconnu en date inconnue. Concession numéro 321, du carré au fond à gauche, attribuée par acte en date du 29 novembre 1955, sous le numéro 969, et dans laquelle a été inhumée Madame Devouge, veuve Cola, la dernière inhumation étant celle de Madame Isméry Cola en date inconnue. Concession numéro 69, du carré au fond à droite, attribuée par acte en date du 4 mars 1894, sous le numéro 226, dans laquelle ont été inhumées la famille Ferco, Le Sueur, Bertin, Lemaire, la dernière inhumation étant celle de M. Paul Le Sueur, en date de l'année 1947. Concession numéro 70, du carré au fond à gauche, à droite, pardon, attribuée par acte en date du 31 août 1898, sous le numéro 274, et dans laquelle ont été inhumées la famille Gossard, Gardan, Dupressoir, la dernière inhumation étant celle de inconnu en date inconnue. Concession numéro 251, du carré au fond à droite, attribuée par acte en date du 1er mai 1887, sous le numéro 198, et dans laquelle ont été inhumées la famille Chéron-Godard, la dernière inhumation étant celle de inconnu en date inconnue. Concession numéro 256, du carré au fond à droite, attribuée par acte en date du 20 août 1886, sous le numéro 194, et dans laquelle ont été inhumés M. Pechon, Gustave, Prévost, Laurence, la dernière inhumation étant celle de Mme Prévost, Laurence, en date de l'année 1907. Concession numéro 276, du fond du carré au fond à droite, attribuée par acte en date du 6 décembre 1907, sous le numéro 343 et dans laquelle ont été inhumées la famille Galli-Lamère, la dernière inhumation étant celle de M. Galli en date de l'année 1916. Concession numéro 277, du carré au fond à droite, attribuée par acte en date du 21 septembre 1905, sous le numéro 328, dans laquelle ont été inhumées la famille Corbet-Lemaire, la dernière inhumation étant celle de Madame Marie-Louise Lemaire en date du 12 mai 1916. La concession numéro 279, du carré au fond à droite, attribuée par acte en date du 6 octobre 1904, sous le numéro 319, et dans laquelle ont été inhumées la famille Payeur-Rudeau, la dernière inhumation étant celle de Madame Catherine Payeur en date de 1911. Concession numéro 280, du carré au fond à droite, attribuée par acte en date inconnue et dans laquelle a été inhumée inconnue, la dernière inhumation étant inconnue. Concession numéro 281, du carré du fond à droite, attribuée par acte en date du 17 septembre 1905, sous le numéro 310 et dans laquelle ont été inhumées la famille Delvoye, Rudeau, Delvoye, la dernière inhumation étant celle de M. Louis Delvoye en date du 27 mai 1931. Concession numéro 288, du carré au fond à droite, attribuée par acte en date du 9 octobre 1912 sous le numéro 389 et dans laquelle ont été inhumées la famille Rebourg-Fontevieux, la dernière inhumation étant celle de inconnu en date inconnue. Concession numéro 328, du carré au fond à droite, attribuée par acte, en date du 20 août 1942, sous le numéro 714, et dans laquelle ont été inhumées la famille Blondeau-Thibault-Fayard, la dernière inhumation étant celle de inconnu en date inconnue. Concession numéro 329, du carré au fond à droite, attribuée par acte, en date du 17 mai 1945, sous le numéro 754, dans laquelle ont été inhumées la famille Flamand-Capel-Grosbon-Bourbier, la dernière inhumation étant celle de inconnu en date inconnue. Concession numéro 330, du carré au fond à droite, attribuée par acte en date inconnue sous le numéro 733 et dans laquelle ont été inhumées la famille Mailleux-Bretelière, la dernière inhumation étant celle de inconnu en date inconnue. Concession numéro 331 du carré au fond à droite, attribuée par acte en date du 8 novembre 1955, sous le numéro 968, dans laquelle ont été inhumées la famille Rousseau-Lefebvre, la dernière inhumation étant celle de Madame Eulalie Rousseau en date du 14 mai 1958. Concession numéro 337 du carré au fond à droite, attribuée par acte en date du 10 mai 1961, sous le numéro 1024, et dans laquelle ont été inhumées la famille Laubin-Vinet, la dernière inhumation étant celle de Madame Berthe Vinet, en date de l'année 1948. Verberie, le 9 septembre 2016. Voilà. Y a-t-il des questions ?
Oui. En ce qui concerne Capelle-Grosbon, parce que au cimetière de Verberie, toutes les concessions des Grosbon, elles sont à perpétuité. Toutes.
Oui.
Ce sont des concessions qui menacent ruine ou qui sont. Ah non, non, il y a deux PP là-bas tout au fond, je suppose que c'est celle-ci. Elle ne menace pas de ces.
Tu viendras.
Ah oui, je viendrai voir parce que il y a des questions d'enlever les trucs de PP. Moi, je vais me faire assassiner quand je vais monter là-haut.
Alors. Là-dedans, la dernière inhumation étant celle de inconnu, en date inconnue. Donc, c'est quand même un peu bizarre.
Ouais,
faut aller voir. Hein, ça peut être.
Le gros Verberie, elle n'a pas 50 000. Hein. Non. Je viendrai reprendre des notes et puis j'irai peut... voir. Parce que j'irai voir avec le pan du cimetière. Parce que les tombes de Pépé, je les connais. Ça,
bien.
Non, je vais aller voir.
Non, on va pas en débattre là, mais
non,
tu vas aller voir.
Non, absolument pas, mais je vais aller voir, parce que je vais
Ceci dit, là, aujourd'hui, donc, les tombes sont reprises. C'est pas pour ça qu'elles sont immédiatement, effectivement, réutilisées, pardon pour le terme. Je cherchais un peu un terme ad hoc,
mais
j'ai trouvé que celui-là. Derrière ça, je rappelle que, justement, pour adopter... les nouvelles procédures qui sont maintenant en vigueur. Nous avons fait construire un nouvel ossuaire, pardon, je cherchais aussi le mot, et que dans les nouvelles procédures, pour chaque tombe, les corps sont mis individuellement dans une boîte qui elle-même est mise dans l'ossuaire. Donc les choses restent séparées. Et on va appliquer parfaitement progressivement, je dis bien progressivement, parce que derrière tout ça a un coût, hormis les aspects sentimentaux, mais il y a aussi un coût, tout ça progressivement pour effectivement récupérer les concessions. Oui, s'il faut la retirer, on la retirera, on va regarder celle de 1998 aussi, parce que c'est peut-être simplement une erreur de frappe, on va regarder de près.
Hein,
mais c'est peut-être une erreur de frappe. Peut-être, bon, voilà. Oui, on va vérifier. Bon, donc, finalement, alors je ne sais pas trop si j'avais un autre choix, mais finalement, j'ai bien fait de le lire. Bien, s'il n'y a pas d'autres questions, propose de passer au point suivant d'ordre du jour. Plus de questions sur ce sujet ? Stratégie, donc on change totalement de domaine. Stratégie locale pour la gestion du risque inondation. Alors, je regarde si j'ai toutes mes feuilles, j'espère. Donc, normalement, vous avez tous reçu le document. Celui-là, je ne vais pas le lire parce qu'il doit faire au moins 150 pages.
134
pages.
Il y en a un qui est
bien. Simplement, je vais vous lire la lettre de Monsieur le Préfet, c'est une demi-page, ça devrait aller, puis ensuite donner quelques explications sur tout ça. Demande d'avis, donc lettre du Préfet de l'Oise, demande d'avis sur la stratégie locale pour la gestion du risque inondation, SLGRI. La loi Grenelle 2 décline la mise en place sur le territoire français d'une stratégie nationale de gestion du risque inondation. Cette démarche se décline à plusieurs niveaux du bassin hydrographique Seine-Normandie aux territoires à risque important d'inondation, TRI, tels que celui de Compiègne dont vous faites partie. Sur chacun de ces TRI, cette réflexion demandée prend la forme d'une stratégie locale pour la gestion du risque inondation. Ce document élaboré par l'Entente Oisenne en collaboration avec les acteurs territoriaux comprend un diagnostic de terrain, puis un plan d'action ayant pour objectif la gestion de l'inondation. Les mesures de la stratégie locale couvrent plusieurs thématiques, la sensibilisation et l'information préventive, la gestion de l'aléa, l'amélioration de la gestion de crise, la réduction du dommage sur les enjeux existants, l'intégration de mesures visant à éviter ou à réduire les dommages dans les nouveaux projets d'aménagement. Après une phase d'élaboration conduisant à un document abouti, une consultation doit être menée auprès des acteurs locaux. Dans ce cadre, votre avis sur la stratégie locale, jointe à ce courrier, est sollicité. Il doit parvenir au plus tard le 22 octobre, délai de rigueur. On l'a quand même reçu le 20 septembre, donc on nous laissait un mois. Le document sera ensuite arrêté par le préfet après avis du comité de bassin Seine-Normandie et avant la fin de l'année 2016. Voilà. Alors maintenant, derrière tout ça, il faut bien dire qu'aujourd'hui, les inondations, c'est devenu une véritable usine à gaz. Donc je vais essayer d'être clair dans mes propos. Tout commence par une stratégie nationale de gestion du risque inondation, établie au niveau France. Ensuite, on passe au niveau du bassin. Pour nous, le bassin Seine-Normandie. Et là, on adopte ce qu'on appelle un plan de gestion du risque inondation, qui définit des objectifs. En parallèle, il y a ce qu'on appelle un EPRI, une évaluation préliminaire du risque inondation qui conduit à classer un certain nombre de territoires en territoires à risque important d'inondation, TRI, dont Verberie. Donc toutes les communes de Verberie à Tourotte sont classées en zone de territoire à risque inondation important. Et derrière ça, on reprend un pont Sainte-Maxence pour aller jusque Creil et voire même au-delà. Pour chaque territoire à risque d'inondation important, donc nous on appartient à celui de Compiègne, on établit une stratégie locale de gestion du risque inondation pour laquelle on vous demande aujourd'hui votre avis. Suite à ça, sera établi un programme d'action de prévention des inondations dit PAPI. Là, on retrouve au moins un sigle familier. Voilà, donc on s'inscrit dans ce schéma-là où il y a des documents dans tous les sens qui se croisent, qui sont en forme de poupée russe et on a quand même quelque chose qui est assez complexe. Vous avez eu ce document à la lecture, je pense que vous y avez jeté un coup d'œil, parcouru. J'ai participé à un certain nombre de réunions et j'en ai lu une grande partie. Et je l'ai lu. Ce qu'on peut dire de ce plan, c'est qu'il décrit un tas de choses qui sont bien, qu'il faudrait faire pour les inondations, une belle construction intellectuelle derrière ça. Ceci dit, toute construction intellectuelle se termine par des actions. Et comme chacun le sait, en général, pas toutes, mais en général, les actions ont un coût. C'est à mon avis là où le document commence à montrer pour moi un point faible. Dans ce document, on parle notamment, il va falloir s'y habituer parce que ça va arriver avec le plan de prévention du risque inondation. Là aussi, autre élément au niveau plus local. Maintenant, va nous imposer des zones d'expansion de crues. Les zones d'expansion de crues, ce n'est pas anodin. C'est des zones sur lesquelles on ne peut rien construire. Alors, on est en train de se battre aujourd'hui. A priori, on pourra faire des petites constructions du style, je sais pas, un ponton de pêche, une installation publique importante. Enfin, je pense à une antenne, quelque chose comme ça. Hein. Une piste cyclable. Enfin, voilà, c'est des zones sur lesquelles on peut faire très, très peu de choses. Et puis ensuite, notamment, parce qu'il nous impose beaucoup d'autres choses, on nous impose également un certain nombre de diagnostics sur tous les territoires, diagnostics de sensibilité à l'inondation. Et quand on fait travailler des bureaux d'études sur des sujets avec des spécialistes, forcément, il y a donc de toute façon toute une série de mesures. Moi, ce que j'ai constaté en lisant tout ça, les inondations, c'est quelque chose contre lequel il faut essayer de se protéger aujourd'hui. On voit qu'à chaque fois qu'il y a des inondations, ça a quand même des coûts très très importants, notamment pour tout ce qui est détruit, donc sur les assurances. Quelque part, on est dans une situation où, si on ne prend pas de mesures, ce qu'on paie aux assurances va monter jusqu'au ciel, va monter progressivement. Ce qui a attiré mon attention, moi, c'est un certain nombre de choses que je vais vous lire. Quand on me lit chapitre 1.7, hein, il n'est pas long du tout, hein, il fait quelques lignes. Suite de la stratégie locale de gestion du risque inondation, la mise en œuvre des mesures identifiées dans les stratégies locales nécessitera l'identification des maîtres d'ouvrage et la création d'un plan de financement recouvrant différents partenaires. Les différents partenaires. Qui sont les différents partenaires? On ne sait pas. Voilà. L'outil adapté qui permet la déclinaison d'un programme d'action global pour la gestion des risques d'inondation est le dispositif PAPI, donc Programme d'action de prévention des inondations. Le PAPI est un outil de contractualisation entre l'État et les collectivités. Il permet de bénéficier de financements de l'État, mais on ne sait pas lesquels, via le fonds de prévention des risques majeurs, dit Barnier. Alors, ceci dit, je voudrais quand même dire un mot du fonds Barnier. Peut-être que d'autres ont d'autres précisions. Comment est-il alimenté, ce fonds? Il est en fait alimenté par les assurances. Alors, aujourd'hui, on nous dit de financement de l'État, via le fonds de prévention du risque naturel majeur, dit Barnier. En fait, c'est un fonds qui est alimenté par les assurances. Et derrière ça, aujourd'hui, ce qu'on voit, j'étais encore ce matin à une réunion, c'est que tout le monde vous dit, mais il va y avoir de l'argent par le fonds Barnier. Tout le monde demandait. Mais le fonds Barnier, il n'est pas inépuisable. Et à un moment donné, je pense que le résultat attendu ne sera pas à la hauteur des attentes que l'on peut avoir. Donc, d'ailleurs, ce matin, il y a quelqu'un qui disait qu'il commençait à être à sec. Donc, on peut être quand même assez inquiet. Un peu plus loin, le PAPI, le fameux PAPI. Le programme d'action est soumis à un processus de labellisation. Autrement dit, on fait un programme, il faut le faire labelliser par l'État. Et si ils estiment qu'il est assez ambitieux, c'est le terme employé, eh bien, on aura droit à des subventions. Voilà, les éléments demandés, diagnostic de territoire, études environnementales, analyse économique, peuvent également bénéficier de financement via un PAPI d'intention. Donc toujours avec le fonds Barnier. Un peu plus loin, il était indiqué dans un autre chapitre, l'animation, la maîtrise d'ouvrage et le financement de ces actions seront à définir dès lors que la gouvernance sera en place. Donc, il n'y a rien de défini à ce niveau-là. Encore un peu plus loin. Afin de capitaliser les données, d'animer au mieux les différentes réunions, groupes de travail et de garantir l'objectivité de ce document, la maîtrise d'ouvrage de cette action pourra faire appel à une prestation extérieure. Les communes pourront être mises à contribution. Là, au moins, c'est clair. On sait déjà qu'on va payer. La structure porteuse de la stratégie locale veillera à accompagner les collectivités. On aura une stratégie, une structure porteuse. Donc généralement, c'est un gros truc qui est au-dessus et qui vous demande de verser de l'argent pour l'alimenter. Voilà. Bon, la stratégie locale permet d'identifier les zones de crue, j'en ai parlé. dont celles qui sont déconnectées du réseau hydrographique. Enfin, ça, c'est autre chose. La collectivité, alors le décret 2015-526 de mai 2015 stipule qu'il appartient à la collectivité dotée de la compétence de protection contre les inondations, item 5 de la compétence GEMAPI, qui va être récupérée au 1er janvier 2018 par les intercommunalités, donc quelque part les communes, de définir les systèmes d'endiguement puis d'en assurer la gestion. Donc, tout ça, c'est les suites de ce qui s'est passé en Vendée, où en fait l'État explique que maintenant ce sont les maires qui sont responsables et les intercommunalités qui seront responsables de l'état des digues. Un plan, alors plus loin encore, hein, des actions de prévention, de protection, de sensibilisation pourront être mises en place, répondant aux objectifs définis par la réalisation du diagnostic des équipements prioritaires. Un plan de financement sera adapté en conséquence, regroupant les différents partenaires financiers. Mais voilà, partenaire financier, ça reste à déterminer. Je rappelle en outre que sur tous ces sujets-là, on a déjà pris deux délibérations. Il y en a une qui était consacrée au PGRI, au plan de gestion du risque, où déjà on avait fait remarquer qu'il y avait sur le plan financier, c'était assez léger. Et puis, on en a pris une autre, un peu de manière indépendante, là, sur la cartographie des zones inondables du territoire à risque important d'inondation. Et je vous rappelle que la cartographie prise en compte, ce sont les crues. Ils disent crues à fréquence élevée, modérée et crues extrêmes. Donc, en gros, c'est trentennale, décennale, millénale. Donc, ils prennent en compte les crues de retour 1000 ans.
Trentennale, centennale et millénale.
J'ai dit quoi comme bêtise ?
Décennale.
Ah, pardon. Trentennale, centennale et millénale. Donc, 30 ans, 100 ans, 1000 ans. Voilà. Donc, nous, on avait fait un certain nombre de remarques. Moi, ce que je vous propose comme avis, de toute façon, il ne faut pas se faire trop d'illusions sur l'importance de notre avis à ce niveau-là. Mais je vous propose l'avis suivant. Telle qu'elle est aujourd'hui rédigée, cette stratégie laisse à penser que la charge financière incombera en grande partie aux communes et intercommunalités au travers des différents transferts de compétences, GEMAPI, virgule, etc., actuellement en cours. Le Conseil municipal demande en outre que soit intégré au SLGRI un développement plus détaillé des conséquences financières de la stratégie et que des engagements précis des partenaires autres que les communes et les intercommunalités soient intégrés. Maintenant, je laisse la place aux questions, commentaires, débats, propositions autres parmi nous. Bon, on y passe un certain temps hein, sur toutes ces affaires d'inondation. Là, je ne sais pas si... Bon, enfin, on fait des plans. Voilà, donc, voilà, est-ce qu'il y a des questions, des commentaires ? Est-ce que ma proposition vous semble déplacée ? Est-ce qu'elle vous semble ciblée sur un point qui est quand même important ? C'est le transfert de charge.
Lors des réunions qui ont eu lieu avec oui. Les autres mairies intéressées, qu'est-ce qu'il en est ressorti ? Quelle est la position des gens qui sont sur le secteur ?
Bon, comment je vais dire ça ? Non, mais enfin, vous le sentez, c'est d'une complexité voilà. Sans nom. Donc, soit les gens s'y investissent, et donc, eux, ils connaissent, mais ils sont pas nombreux. Les autres écoutent. Ça se passe comme ça. La dernière fois que j'ai assisté à cette réunion-là, on présentait le SLGRI, j'ai posé les questions financières. Et on nous dit, vous le voyez, le fonds Barnier, vous demanderez par le fonds. C'est un peu comme l'Europe. Aujourd'hui, on vous dit, oui, on restreint les subventions au niveau national, mais il faut demander à l'Europe. Enfin, l'Europe, c'est pas un puits sans fin. Hein. Donc, c'est un peu la même histoire. Maintenant qu'il faille faire des efforts sur la prévention du risque inondation, ça, c'est quand même c'est quand même une réalité. Nous, là, on vient quand même d'investir de l'ordre de 60 000 euros. Pour terminer la digue qui doit protéger la rue du port des crues trentennales, pas au-dessus, trentennales, mais déjà ça permet d'étaler dans le temps, des petites crues, en fait, les gens devraient être à l'abri, sachant qu'on a touché le bâtard d'eau qui permettra de clôturer de manière hermétique le passage qui reste ce matin. On l'a d'ailleurs testé. Et que on se procure des obturateurs pour tout ce qui est réseau, pour qu'effectivement on puisse obturer les réseaux et que l'eau ne remonte pas par là. Donc on fait des efforts, on avance dans ce domaine-là. On est en train aussi de regarder, d'affiner notre plan communal de sauvegarde. Donc tout ça, ça fait partie des choses qu'on est en train de faire, parce que effectivement, il faut se prémunir et il faut surtout que les gens apprennent à vivre avec le risque. Bon, là, il n'est pas très important, le risque. Hein. Les crues sont lentes. Hein. Donc, il faut qu'on apprenne à vivre avec ce risque-là.
Donc, il y a une décharge de responsabilité de l'État s'il refile ça aux communes.
Après...
Il n'y a pas que l'aspect financier, il y a la responsabilité aussi. L'État, alors, il va dire, bah, nous, on avait demandé aux communes de le faire, elles ne l'ont pas fait. C'est un peu ça.
Mais... Après, que l'État, à un moment donné, estime que finalement, ce sont les élus de proximité qui sont mieux à même de voir l'état des digues. Pourquoi pas ? Mais dans ce cas-là, qui transfère des moyens. Voilà, qui transfère des moyens. Là, il n'y a pas de transfert.
Il transfère les responsabilités, mais il ne donne pas les moyens de le faire. Donc,
après, ben, les moyens de le faire, c'est sur la substance financière de la commune. Hein. Qu'on soit clair. Hein. Donc, ils autorisent effectivement, dans le cadre de GEMAPI, à lever une taxe supplémentaire qui peut aller jusqu'à 40 euros par habitant.
Après, on se retrouve comme dans les Yvelines avec l'impôt foncier qui prend 67%.
Donc, ben, on est attentif à tout ça. C'est pour ça que moi, je réagis sur ces sujets-là. Je comprends qu'il faille faire des efforts. Hein, parce que, mais voilà, il faut aussi faire des efforts de pédagogie pour que tout le monde soit conscient qu'il vit en zone inondable pour ceux qui sont au nord de la commune.
Très restrictif sur les autorisations de construire parce que.
Bah là, c'est le PPRI, donc je ne vais pas en parler là, parce que sinon on est reparti sur un autre document, le plan de prévention du risque inondation, mais qui, en ce moment, est aussi en train de se finaliser, de se clôturer avec enfin, des choses toujours plus contraignantes.
Contraignantes, c'est ça.
Ça, c'est clair. Et là, c'est le. Enfin, là, on nous demande notre avis, mais ne vous faites pas trop d'illusions. On a émis d'avis sur le PGRI. Il a été validé tel que. Hein. C'est validé par soit le préfet de bassin, soit là le préfet de l'Oise, mais sur des directives qui sont celles-là.
Est-ce que ce sont des choses qui sont susceptibles d'évoluer par l'ancien changement de gouvernance au niveau national? Est-ce que les élus par l'AMF font remonter les difficultés au plan local et puis ça peut évoluer?
Les élus par l'AMF font remonter les difficultés, notamment sur la prise de compétence GEMAPI, sur les problèmes qu'elle pose. Moi, je dirais même qu'il y a d'autres problèmes. C'est qu'aujourd'hui, une inondation, c'est un peu aberrant de la gérer au niveau d'une commune. L'inondation, elle ne s'arrête pas aux limites de la commune. Elle se gère de manière plus large. Mais l'AMF réagit là-dessus. Mais aujourd'hui, de toute façon, moi, à ta question précise, j'ai le sentiment que, quelles que soient les évolutions, les personnes, etc., on ne reviendra pas en arrière de ces choses. Parce que de toute façon, on n'a pas de, voilà, il n'y a pas de moyens derrière.
T'es trop loin pour revenir en arrière maintenant.
Puis il y a eu un travail énorme de fourni. Enfin, en kilos de papier, là, ça doit être impressionnant. Voilà. Bon, si j'en reviens à mon modeste avis sur les 134 pages, mais voilà, est-ce que il y a des questions là-dessus? Est-ce que. Non?
C'est bon.
On le met au vote? Donc je répète, telle qu'elle est rédigée aujourd'hui, cette stratégie laisse à penser que la charge financière incombera en grande partie aux communes et intercommunalités au travers des différents transferts de compétences, GEMAPI, virgule, trois petits points, actuellement en cours. Le conseil municipal demande que soit intégré au SLGRI un développement plus détaillé des conséquences financières de la stratégie, et que des engagements précis des partenaires autres que les communes et les intercommunalités soient intégrés. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Point suivant de l'ordre du jour, vente d'un local professionnel. Alors, nous en avions déjà parlé lors du précédent conseil municipal. Il s'agit du salon de coiffure, aujourd'hui baptisé Jérém Coiffure, qui se situe 3 rue Juliette Adam. Le local se compose d'une grande pièce, d'un débarras, d'un WC, soit une surface d'environ un peu moins de 60 mètres carrés. Un emplacement de parking est situé dans la cour à l'arrière du bâtiment. Ce local est actuellement loué à M. Jérémy Ancelin, qui exerce une activité de coiffure mixte depuis le 31 décembre 2014 pour un loyer mensuel de 339,59 € hors charge. M. Jérémy Ancelin souhaiterait acquérir ce bien et en a fait la demande à la commune. Donc nous, d'un autre côté, on a eu un avis de France Domaine, hein, qui a émis un avis, qui a estimé ce local et le petit morceau de terrain qui est avec à 60 000 euros. C'est l'estimation de France Domaine. On en avait discuté ici, on avait dit que l'intéressé avait déjà fait des travaux à l'intérieur. Donc j'ai entrepris une discussion et aujourd'hui je vous propose de vendre le local professionnel situé 3 rue Juliette Adam, cadastré section AH numéro 96, pour partie lot 22 au rez-de-chaussée du bâtiment A et les 28 centièmes de la cour pour un montant de 155 000 euros à M. Jérémy Ancelin, et d'autoriser le maire à signer l'acte de vente à venir en l'étude de Maître Lefranc, notaire à...
155 000.
J'ai dit 55 000
oui. 100.
Non, non, pardon.
55, j'ai compris.
55. Alors, je répète, 55 000, 5, 5, 3, 0. Il a dit
60 de départ, 150 euros. Ouais, j'ai
compris. Ça aurait été bien. Bon. Quelque part, c'est conforme à la discussion qu'on avait eue lors du dernier conseil municipal. On avait déjà eu un échange là-dessus. Là, on est en train de formaliser les choses. Voilà. Maintenant, j'attends les questions, les remarques. Oui. Il mérite peut-être.
Il est jeune, c'est pas un bien qui coûte très 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 cher, quoi. C'est pas comme s'il allait acheter un salon de coiffure à 200 000 euros. Quoi.
Non, mais on est d'accord. Enfin, c'était la relation que tu fais entre il est jeune, il mérite. Mais oui, les vieux peuvent mériter aussi.
Je pousse partie pour les jeunes.
Disons qu'il est au début de sa carrière et que ça permettra de se lancer dans de bonnes conditions. Bien, on passe au vote sur le sujet. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Adopté à l'unanimité. Sujet suivant. On reste dans la vente. Vente d'un véhicule. Alors, je rappelle que nous avons acquis un nouveau véhicule avec une grue. Parce que l'ancien véhicule était très usagé et que la grue en plus était tombée en panne, donc on a, au titre, avec le vote qui va bien, acquis ce nouveau véhicule. Suite à ça, par un jeu de chaises musicales, on arrive au véhicule le plus ancien dont on n'a plus vraiment besoin aujourd'hui. Donc ce véhicule, on l'a mis en vente. Il y a d'ailleurs eu plusieurs acheteurs. Donc ça, c'était bien. Il y a donc eu une petite compétition entre les deux acheteurs qui nous a permis d'avoir une dernière offre à 2600 euros. C'est ça, madame ? Donc c'est contradictoire par rapport au document que vous avez eu. Dans le document que vous aviez eu, on parlait de 1500 euros. Depuis, il y a eu des offres... plus élevé, et on arrive aujourd'hui à 2600 euros.
Il faut encore attendre, c'est trop tôt.
Non, je pense que là, c'est bon. Il faut savoir s'arrêter à un moment donné.
Il meurt, le camion. On va attendre l'année prochaine, voilà.
Parce que Monsieur Leblanc en a marre de jouer le rôle de commissaire-priseur. Donc, voilà. Non, mais non, ça y est, c'est bon là.
On me dit.
C'est bon. Je pense qu'on a tiré le meilleur qu'on pouvait tirer de cette affaire-là. 2600. Qui a fait la proposition de 2600 euros ?
Monsieur Delahaute, c'est une entreprise.
Allez-y, oui.
C'est une entreprise de bâtiment.
D'accord.
Qui vient de temps en temps travailler sur Verberie, qui a entendu, qui a voulu dire que nous demandait.
Il est tombé en arrêt devant notre camion.
Non, mais bon, une entreprise de bâtiment, ils ont besoin de tel type de. Ce qui l'intéresse surtout, c'est qu'il y a un très très fort PTRA pour tirer une.
PTRA.
Pour tirer une remorque. C'est ça ?
Roulant, c'est autorisé.
Ouais.
Voilà. Et donc, ça lui permet de tirer sa grue en nickel. Et voilà.
Et c'est le nom de l'entreprise.
Le nom de l'entreprise, c'est l'entreprise. Je cherche le nom. Je ne sais pas encore. C'est monsieur. Bon, c'est une entreprise qui s'appelle Rénovation Habitation. Donc, c'est une entreprise du bâtiment. Et c'est monsieur Delahaude Alain.
Donc, c'est plus monsieur Ledin.
Non.
Non. Parce que ben il y a eu d'autres offres et voilà. C'était au plus offrant, hein. Ils ont fait chacun leur dernière offre. Puis voilà. À un moment donné, il faut arrêter, quoi, faut demander une dernière offre.
Oui, je pense que dans 2 mois,
ouais, enfin un camion il s'use aussi s'il n'est plus utilisé. À mon avis, c'est pas comme ça que ça va se passer. Hein.
Aujourd'hui, il y a presque 33 000 euros de frais à faire. Il y a une vitre latérale à changer, il y a un émail, il y a un travail dessus, il n'est pas neuf. Hein.
Il est amorti. Il a été sérieusement amorti. Et on en tire 2600 euros. Qui est contre ? Je propose de passer au vote. Où il y a encore des commentaires. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Adopté à l'unanimité. Taux de promotion par grade des agents communaux. Donc aujourd'hui, depuis la loi 2007-209 du 19 février 2007, chaque assemblée délibérante doit fixer les taux de promouvables par grade. Monsieur le président de séance rappelle à l'Assemblée que les taux ont été fixés par délibération du Conseil municipal en date du 26 novembre 2015. Il est nécessaire d'apporter une modification au tableau suivant concernant la filière police et avant de délibérer sur les taux de promotion, de recueillir l'avis du comité technique paritaire. Donc là, ce qu'on va faire, en fait, c'est demander l'avis du comité technique paritaire et après, on délibérera sur les taux de promotion. Hein. Donc on est sur une étape intermédiaire. Donc je vous propose de solliciter l'avis du CTP pour un taux de 100% pour chaque grade mentionné dans le projet de délibération joint. Donc le projet de délibération que vous avez reçu fait effectivement état d'un changement de grade pour la filière police municipale. Chef de police, de service de police municipale principale première classe. Voilà. 100%. Ce projet de délibération sera soumis au comité technique paritaire et cette question reviendra à l'ordre du jour d'un prochain conseil municipal pour délibération définitive. Cette délibération ne sera pas prise pour une année mais perdurera tant qu'elle ne sera pas modifiée. Voilà. Questions sur le sujet ? Commentaire. Bien, je vous propose de passer au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Adopté à l'unanimité. Ensuite, modification du tableau des effectifs. Alors, dans le cadre de tous les travaux qui sont faits, et notamment des travaux qui sont faits rue de la République, Et afin de maintenir et de favoriser le commerce local, on va mettre en place une zone bleue sur la rue de la République pour que empêcher le stationnement des véhicules tampons. Effectivement, les véhicules qui soient rue de la République soient les véhicules des personnes qui vont faire leurs courses dans cette rue. Dans ce cadre-là, si on met en place une zone bleue, il faut la faire respecter. Sinon, ce n'est pas la peine. Pour la faire respecter, après étude, en fonction des charges, je pense qu'il serait souhaitable de recruter un agent communal supplémentaire qui puisse assurer les fonctions d'agent de surveillance sur la voie publique, dit ASVP. Alors, ce serait un recrutement à mi-temps, puisque ce serait un recrutement sur 20 heures. Alors, l'ASVP, qui est-il ? L'ASVP n'est pas inclus dans un cadre d'emploi spécifique de la fonction publique territoriale. Il ne fait pas partie de la filière de police municipale. Bon, après, il peut s'y raccrocher et il peut effectivement concourir. L'ASVP est un agent communal de catégorie C, adjoint administratif, adjoint technique, à qui le maire confie des fonctions très limitées. Il doit être agréé par le procureur de la République et assermenté par le juge du tribunal à la demande du maire. L'ASVP doit prêter serment devant le tribunal de grande instance pour pouvoir agir seul sur la voie publique. L'ASVP a la compétence de constater par procès-verbal les infractions et les contraventions aux règles relatives à l'arrêt et au stationnement des véhicules. Concrètement, cela signifie qu'il peut constater et verbaliser les cas d'arrêt ou de stationnement interdit des véhicules. Il peut constater et verbaliser les cas d'arrêt ou de stationnement gênant ou abusif. Il peut constater les contraventions relatives au défaut d'apposition du certificat d'assurance sur le véhicule. Constater les infractions et les contraventions aux dispositions des règlements sanitaires relatives à la propreté des voies et espaces publics, donc tout ce qui est déjection canine, par exemple. Il peut aussi être nommé par le maire pour rechercher et constater les infractions aux règles relatives à la lutte contre les bruits de voisinage, les nuisances sonores. Il peut être nommé également par le maire pour rechercher et constater les infractions au code de l'urbanisme. Même si ce n'est pas marqué là, je pense qu'il peut aussi assurer la sécurité lors des traversées des écoles. Ça fait partie de ses missions. Donc la tenue des ASVP, elle doit être... ils ont une tenue. Le maire est libre de la tenue, différente des uniformes réglementaires des policiers municipaux, etc. Il est recruté sans concours ni examen. Il est rémunéré sur la base sur la grille du grade choisi par la collectivité. Il peut être contractuel, maximum un an, pour surcroît d'activité ou agent territorial titulaire. Dans les deux cas, il n'y a pas de formation initiale ou continue pour exercer ses fonctions. Certaines formations existent bien, mais ne sont pas obligatoires. Donc, je propose de mettre ça en place. Regardons les effectifs de policiers municipaux dans les communes voisines. On verra qu'on est nettement en dessous de tout ce qui se fait. La Croix-Saint-Ouen, ils sont un certain nombre. À Béthisy, ils étaient deux. Je crois que temporairement, en ce moment, ils sont plus deux, mais ils étaient deux. Donc ça ne semble pas être d'un grand luxe. D'autre part, encore une fois, on a un tas de petites choses à faire respecter, et notamment le stationnement. Et c'est vrai que si on met une zone bleue, pour le coup, faut qu'elle soit respectée. Ce n'est pas les seuls problèmes de stationnement dans Verberie, d'ailleurs, on en a quand même pas mal en permanence. Questions ? Je laisse questions. Ah, pour l'instant, ça c'est un processus pour créer le poste, il n'y a personne de recruté.
Il y a des gens proposés
dans... Ah non, pour l'instant, là on ne peut pas lancer un processus de recrutement si le tableau des effectifs n'est pas ouvert. Ce ne serait pas, je dirais, voilà, il faut que le conseil municipal commence par autoriser ça, et après on passe à la phase recrutement. Non, il y a, alors là, d'abord ce n'est pas ma manière de travailler, mais les personnes ont vu, on va lancer un process de recrutement pour trouver une personne ad hoc sur ces affaires-là.
Quel temps c'est suffisant, Michel, par rapport aux...
En ayant discuté un peu avec des gens qui ont l'habitude, j'ai discuté aussi un peu avec le maître d'ouvrage qui s'occupe aujourd'hui de la voirie. Il est quand même tout le temps sur la voirie, donc il a vu des centres-villes, des choses qui se mettent en place, comment les communes réagissaient. A priori, aujourd'hui, ça semble suffisant. Maintenant, on pourrait aussi partir sur une délibération où, là, je vais me tourner vers Madame Javelot très rapidement, hein. Où on peut créer un poste à 35 heures, et quand je recrute la personne, dans un premier temps, je la mets à 20 heures. C'est une possibilité ou pas, madame ?
Oui, il faudra modifier le tableau.
Ah, ben, faut, oui. Donc, non, c'est pas une possibilité, c'est pas du tout ce que j'envisageais.
Moi,
ouais, ben après, de toute façon, ça peut toujours se modifier si on estime que.
Après, de toute façon, tu peux le revoter en conseil de passer à 35 heures.
Exactement. Non, mais si on est obligé, comme Mme Javelot dit, à 20 heures de remodifier le tableau des effectifs, là, c'est pas la peine. On part à 20 heures et on voit après.
On ne va pas lui demander une formation spéciale parce qu'il faut quand même qu'il connaisse la législation déjà.
Oui, je pense que c'est indispensable.
Bah oui, hein.
Parce que là, ce n'est pas une obligation.
Mais
c'est
pas quelqu'un qui est déjà formé.
Non,
ça nécessite
pas.
Attendez. Si c'est un boulanger qui vient pour postuler, je sais pas.
Bah, tu le prends pas, je prends quelqu'un qui a abonné
pour faire ça. C'est la différence par rapport à la filière police municipale, où dans la filière police municipale, lorsque vous recrutez quelqu'un, il doit avoir passé un concours. Là, non. Mais oui, on va voir. Qu'on lui fasse suivre une formation, ça va de soi. Enfin, s'il se présente pour le poste, c'est qu'il a envie de faire ce poste-là. On peut même penser que, enfin, dans un certain nombre de cas, les gens qui arrivent comme ASVP s'orientent ultérieurement vers la filière police et passent les concours. Ça semble une certaine logique.
Ça se passe.
Ça semble quand même d'être une certaine logique. Après, il y a sans doute des gens qui restent à SVP tout le temps. Hein. Il y a de tout.
Qui demande une mutation, c'est-à-dire quelqu'un qui peut venir d'une autre ville.
Voilà, non mais est-il formé ou pas ? Effectivement, aujourd'hui, on n'en sait rien. On peut avoir quelqu'un qui se présente et qui était déjà à SVP quelque part.
Vous verrez les CV. Il faut que le poste est ouvert, pour les CV, puis tu choisis.
Mais oui, exactement, oui, monsieur l'ami.
On est bien d'accord qu'à terme, ce que vous prévoyez, c'est un policier municipal en effectif, plus un ASVP.
Oui, plus un ASVP à 20 heures. D'accord.
Pendant la campagne, vous étiez engagé sur un deuxième poste policier municipal. On a un certain nombre de problèmes de sécurité, on entend parler, on a des gens qui se plaignent aussi. Est-ce que ce n'est pas plus judicieux d'être sur ce type de poste, qui pour le coup est fort polyvalent ?
Alors, compte tenu, je crois qu'on a vraiment aujourd'hui deux cas. Hein. Il y a le cas des problèmes de stationnement, etc. On a ce problème-là qui est à régler. Est-ce qu'aujourd'hui, il faut passer sur un deuxième policier ? Alors, c'est pas du tout la... Enfin, c'est plus engageant, ce que vous proposez. C'est plus engageant aussi pour les finances municipales, hein, très clairement. Voilà. Et c'est aussi, là, pour le coup, un concours et une formation, s'il ne l'a pas eu, une formation derrière, qui est d'ailleurs assez longue. Elle dure plusieurs mois, hein, elle dure 6 ou 7 mois.
Mais là, par contre, la SVP, on ne recrute pas un ASVP. La SVP est une mission qu'on confie à un adjoint administratif que l'on va recruter. Et c'est à court terme, puisque ça sera forcément un contractuel. Il ne pourra pas être là de plus d'un an sur cette fonction.
Alors après, on peut le titulariser. Hein.
On peut le titulariser dans son grade.
Dans son grade.
Il n'est pas filière de police. Il n'y aura pas d'adjoint technique ou d'adjoint administratif. Ça, d'ailleurs, il faut le déterminer.
Moi, ce que je vous propose, c'est ça pour l'instant. Alors, j'entends la question de Monsieur Lamy, hein, très clairement. Mais je propose déjà d'aller à ce niveau-là.
J'ai juste une petite remarque. Peut-être qu'on peut effectivement se dire que c'est déjà une grosse amélioration de quelqu'un. Et aussi, peut-être de dire que parfois, en fonction des besoins, le soir, voire la nuit, peut-être qu'on aura cette possibilité-là, quand même, avec les 20 heures, qui puissent circuler pour les problèmes de sécurité.
Non.
Non.
On a essayé, mais pas
du tout. Pas.
Non. C'est pour ça que je parlais d'un policier municipal, parce que la SVP ne peut pas être sur le terrain pour ce genre de...
Non.
On n'est pas un agent qui n'est pas dans le cadre de la police municipale sur le terrain avec
un potentiel risque. C'est déjà un premier pas.
Moi, je pense que c'est un premier pas. Et si dans un an, on décide d'aller sur un poste de policier municipal, un deuxième poste de policier municipal, on ira sur un deuxième poste de policier municipal. Hein. Et puis, si on le recrute bien, il pourra aussi passer le concours ad hoc. Hein. Mais j'entends la question. Hein.
Il y aura des heures fixes ou au-delà?
Ah bah ça, c'est après, il y a 20 heures. Après, c'est une question de discussion, de contrat. On peut avoir des heures qui sont modulables. Hein. Mais effectivement, pas la nuit. Alors, sur les affaires de stationnement, ceci dit, la nuit, bon, il y a des problèmes à régler, hein, c'est vrai. Mais pas sur la zone bleue. La zone bleue, elle ne sera pas active la nuit. Hein.
On a les caméras quand même, enfin, au niveau sécurité, on a fait des efforts.
On met une zone bleue pour la République.
Alors, pour, effectivement, dans le domaine de la sécurité, je rappelle que là, ben, on a déjà les caméras qui sont en fonctionnement, hein, qui d'ailleurs sont déjà été largement utilisées par la gendarmerie. On a déjà eu pas mal d'extractions qui ont permis d'ailleurs de lancer des process, parce que pour l'instant, on est dans les poursuites judiciaires intéressantes. Bien. Je vous propose de passer au vote. Alors, ma réponse à votre question, monsieur Lamy, c'est on fait déjà un premier pas là, et on regarde après, et on voit si effectivement il faut aller vers deux policiers municipaux. D'ailleurs, si on recrute bien notre ASVP, peut-être que c'est voilà, ce sera quelque part commencer une aventure avec quelqu'un. Enfin, le terme aventure n'est pas forcément bien choisi. Carrière avec quelqu''un. On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc 3.
Non, j'ai un pouvoir.
Ah, d'accord. 4 abstentions. Et donc, derrière ça, nous sommes 24, si j'ai bien compté, avec les...
Oui, c'est ça.
25. Ah, ben 25, oui, puisque Jean-Claude est rentré. C'est 20. Donc, 21 pour.
Non. De manière, je me serpais de ma voiture maintenant. En garderie, à qui j'aurais tellement dit.
C'est vrai. Voir en vélo. Bon, l'idée avec la SVP, c'est bien de jouer sur tous les domaines, hein, stationnement, école, urbanisme, voilà, et petits troubles de voisinage aussi. Il y a quand même beaucoup de problèmes de voisinage en ce moment. Monsieur Depp, je l'ai vu ce midi, me faisait remonter le fait qu'il y avait en ce moment, de manière beaucoup de problèmes de voisinage, avec une montée de l'agressivité qui est...
C'est vrai qu'un ASVP sur des choses comme ça, moi personnellement, enfin, je trouve que c'est pas du tout judicieux.
En tout cas, cet homme-là, il va être la bête noire de Verberie. Hein.
Comment?
Je dis cet homme-là va être la bête noire de Verberie.
Pourquoi? Enfin, cet homme ou cette femme...
Je suis pas d'accord avec toi, pourquoi? Pourquoi il serait la bête noire? Je comprends pas, là.
Je dis, cet homme-là va devenir à Verberie la bête noire.
Mais non, pourquoi?
Mais si,
Bon, déjà, ce n'est pas forcément un homme.
Ouais,
bon,
la personne qui va faire ce rôle-là va devenir la bête noire. Je m'explique, quelqu'un qui met des procès à tort ou à raison.
Ce sera à raison.
Arrivera un moment où il mettra un procès et il va tomber sur quelqu'un qui ne sera pas comme tout le monde, qui ne va pas lui dire merci monsieur, qui va lui dire. On a l'exemple flagrant, là dernièrement à la télévision, mais maintenant les gens ne se jettent pas de les brûler, les gendarmes.
Bon, on n'est pas quand même.
Je suis tout à fait d'accord.
J'entends ce que tu dis, et c'est d'autant plus important de soutenir l'action des personnes qui font respecter la loi par tous les citoyens qui sont des citoyens justement responsables.
Ah oui, je suis tout à fait d'accord.
Hein? Donc faisons-leur bien remarquer.
Il y en a toujours un certain pourcentage qui sont autrement.
Oui.
D'accord avec moi.
Oui. Et bien sur un tel comportement, il y a 2 heures, j'ai reçu une personne, hein, qui s'en était pris d'ailleurs à des agents municipaux. J'ai reçu une personne avec l'adjudant-chef Berlemont. Je pense qu'il ne recommencera plus. Voilà.
De toute façon, s'il a un procès, c'est qu'il a fait une
affaire. Oui, bien sûr.
Il faut aussi avoir garder raison.
Sur ces affaires-là, il faut que les citoyens qui sont des citoyens corrects montrent qu'ils soutiennent les forces de sécurité qui sont en action et pas qu'ils se cachent derrière leurs petits doigts.
Oui, non, mais ça, il y a un pourcentage de gens qui sont comme ça, puis pas un pourcentage qui sont autrement. Là, on le voit tous les jours aux informations. Hein.
Et pour revenir sur ce sujet-là, quand il se passe quelque chose, on alerte, on donne les identités. On n'est pas dans un pays totalitaire, donc on ne va pas parler de délation. On donne les identités. Il y a des personnes qui sont en charge d'instruire le dossier, de vérifier tout ça, et après de mettre les gens face au juge.
Oui, mais ça c'est de la théorie, ça, Michel.
Non, c'est de la pratique.
Oui, mais bon, si tu veux, de là à dire on identifie les gens, tu mets des caméras vidéo. Les délinquants sont pas fous, ça, parce que c'est qu'une caméra vidéo.
Non, c'est pas ce que je voulais dire. Aujourd'hui, on a un certain nombre de nos citoyens qui voient parfois des actions qui sont des actions malhonnêtes, qui ne respectent pas les règles, et ils sont parfaitement connus, mais les personnes disent non, je veux pas donner les noms, je veux pas. Non, ça, c'est pas bon. Ce n'est pas de la délation.
Comment t'appelles ça?
Du citoyenneté.
J'appelle ça alerter sur un comportement qui n'est pas un comportement normal. Et après, on alerte les forces de sécurité et elles vérifient. Après, voilà.
Après, tu vois ça comme ça, moi, pas. Bon, pour moi, c'est de la délation. Tu dénonces quelqu'un qui fait un... C'est vrai que ça fait drôle de voir quelqu'un qui est en train de faire un malfroid sur une voiture, de broyer une voiture.
Bah, c'est plus mal dire. Alors,
pour moi, c'est pas de la délation.
Moi, je suis un petit peu étonné par la conversation, parce que dans une société qui est bien faite, les gens, entre guillemets, c'est pas une attaque, mais... entre guillemets normaux dans cette société-là, participent au bien-être de tous. Donc concrètement, dès lors que moi je vois quelque chose qui se passe, bien évidemment, soit j'interviens, soit je fais intervenir. Là, pour le coup, c'est pas une question de délation ou pas, c'est une question de s'assurer que la société, qu'on préserve notre société. Moi, je pense que si tout le monde le faisait, effectivement, on aurait sans doute moins d'emmerde.
Oui, parce qu'après, le poids de la société, il est quand même dans ce sens-là, très très majoritairement. Et si les gens réagissent, ils sont très majoritaires. Croyez-moi, les gens qui se comportent mal devant le poids de la société, ils vont arrêter rapidement. Avec mesure.
Ouais.
Pardon.
pense une chose sur la question de la SPP. Encore une fois, pour moi, la question des...
S'il vous plaît, un peu de silence.
La question des troubles de voisinage, c'est pas du déjeuner. Enfin, en sens, c'est une bonne chose que d'envoyer la SPP dessus.
Non, mais bon, on verra après.
Je pense que sur les troubles de voisinage, ça peut largement dégénérer. C'est pas du tout un agent qui est formé pour ça. Mais ça peut appeler aussi. Et s'y mettre un agent municipal dans la sensibilité.
Non, mais la SVP, il est là que pour constater. Hein. Il n'est pas là pour
intervenir. Ah, si, mais des procès. Hein.
Non, sur le voisinage.
Il est là pour intervenir, pour dialoguer. Maintenant, après, il y a une question de circonstances, d'interprétation. Il est clair qu'il ne faut pas envoyer... Pardon. Il ne faut pas envoyer un ASVP... des gens qui sont particulièrement agressifs, enfin, ou un endroit qui n'est pas correct. Mais il y a des petits troubles du voisinage. Au départ, les gens ne sont pas forcément d'ailleurs très agressifs. Je suis d'accord, si les gens sont extrêmement agressifs et on a passé la ligne jaune, il ne faut pas envoyer la SVP, c'est clair. Mais bon, il y a M. Depp qui gérera ça. Dans quel cas ils y vont à deux, dans quel cas... Ça fait partie des choses aussi qui maîtrisera.
Il sera sous la gestion de qui alors en fait ?
Ah ben,
de Monsieur Deb, ben, de l'agent municipal.
Oui, de l'agent de police municipale.
Il travaille en relation avec l'agent municipal ou est-ce qu'il est en responsabilité
Alors là, je me tourne administrativement.
Comme c'est un agent municipal.
Comment ? C'est oui, du coup, c'est un agent technique.
Voilà,
mais il sera quand même dans. Ouais. Donc, de toute façon, le travail de police municipale, il est quand même organisé par par CODEF. Hein.
Ah ouais.
Bien, je vous propose de passer au point suivant. Désaffectation d'un local de l'école maternelle. Donc, je vais donner très vite la parole à l'adjoint aux affaires scolaires. Aujourd'hui, le relais d'assistance maternelle a une salle qui se trouve au niveau de bâtiment de la communauté de communes. La communauté de communes, du fait du regroupement et de la fusion avec l'agglomération de la région de Compiègne, va résilier le bail de location du bâtiment du 13 rue Saint-Pierre au 1er mars 2017. Donc il va falloir voir ce que l'on peut faire et ce que l'on fera de tout cet ensemble. En tout cas, il nous a semblé intéressant, opportun, de dire la salle qui est aujourd'hui une ancienne salle de classe, si je vois bien, du RAM, soit récupérée avec cet ensemble pour que, éventuellement on verra, mais on pourrait envisager une vente de tout ça à terme. Après le 1er mars 2017, évidemment. Donc l'idée, c'est de transférer effectivement le relais d'assistance maternelle dans ces bâtiments qui se trouvent au niveau de l'école maternelle, sachant que nos effectifs, là, sont en train de baisser. Donc je laisse maintenant la parole à monsieur l'adjoint aux affaires scolaires.
Oui, écoutez, Michel a déjà bien... résumer la situation, on va dire. Donc, vous vous souvenez qu'à la dernière rentrée, on a donc fermé une classe de maternelle. Le bâtiment donc, qui est vidé donc, de la classe, c'est donc celui qui est qui donne vers l'extérieur de la rue des Remparts, hein, dans le bout de cette aile-là, au niveau de l'école maternelle. Donc, on a eu plusieurs discussions, évidemment, avec la directrice d'école, avec l'inspecteur de l'académie, avec la directrice des services de la CCBA, et puis Yamina Barrère, donc celle qui s'occupe du relais d'assistante maternelle. On s'est donc rencontrés sur les lieux pour qu'ils puissent discuter avec notamment Madame Latic et la directrice, et puis aussi l'enseignante qui est attenante à la salle, la fameuse salle donc, qui serait éventuellement la salle du RAM. Donc pour lister toutes les problématiques qui peuvent ressortir, hein, des inquiétudes des unes et des autres, on va dire, notamment des enseignants et puis les personnes du RAM. Donc il en ressort toute une liste qui a déjà bien été dégrossie. Après on s'est tourné vers Madame Javelot et puis Arnaud Leblanc pour les aspects techniques et puis réglementaires.
Et donc, voilà, bon, ce soir-là, en conseil d'école, évidemment, le sujet a été abordé. Hein, ce n'est pas une solution. Personne ne saute de joie lorsqu'on annonce ces choses-là, mais c'est comme ça. Il faut essayer de trouver le meilleur compromis possible. J'ai encore eu quelques questions de parents élus ce soir, donc on va essayer d'y répondre. Mais en tout cas, on s'oriente vers cette solution-là. Il est dommage quand même, sur Verberie, de ne pas continuer à leur fournir un local, puisque le RAM, c'est important, c'est nos futurs enfants de demain. Le jardin d'éveil, c'est quand même, voilà, ça fait partie de l'éducation de l'enfant, et c'est vraiment très important. En moyenne, donc, les stats que donc, nous ont fait parvenir la CCBE, c'est par exemple du 1er janvier au 30 septembre, la fréquentation, c'était 15 assistantes maternelles. Donc, j'ai oublié de préciser une chose, c'est une demi-journée, donc le mardi matin, de 9h à midi à peu près, une fois par semaine. Hein, donc, que le mardi matin, une fois par semaine. Et il n'y en a pas pendant les vacances scolaires, etc. Donc, c'est très peu. Quand même, il faut relativiser. Hein, ce n'est pas tous les jours non-stop. Hein. Donc il y a en moyenne depuis le 1er janvier, donc du 1er janvier au 30 septembre, 15 assistantes maternelles qui vont dans la salle du RAM aujourd'hui, et ça représente une moyenne de 26 enfants. Hein, donc voilà. Alors c'est une moyenne, et c'est aussi étalé dans le temps, c'est-à-dire qu'il y a des nourrices qui vont, des assistantes maternelles pardon, qui vont plutôt de 9h à 10h, et puis d'autres qui vont y aller de 11h à midi, voilà, en fonction du rythme de l'enfant. Hein, donc des biberons, etc. Enfin, tout ce qui va bien.
C'est pas 15 personnes en même temps.
Non, c'est pas 15 personnes en même temps. On continue de 9h à midi. Voilà. Donc, non. C'est pour ça que le personnel du RAM, Yamina, est venu constater et a regardé si c'était faisable ou pas. Donc, il y a des modifications techniques à apporter. Il y a encore des choses
à
voir. Voilà, c'est où est-ce qu'on met les poussettes. Bon, il faut enlever les poubelles. Enfin, vous voyez, on tombe dans le détail. Hein. Bon, mais c'est des détails qui sont importants pour que tout se passe bien des deux côtés, en fait. Donc, voilà. Donc, là, on vous demande donc, de lancer le process. Je crois que c'est Mme Javelot qui pourra faire des compléments si je me trompe. Mais on va demander donc à la préfecture. La préfecture va de nouveau se retourner vers l'éducation nationale pour voir la faisabilité ou pas. Et elle donnera son accord pour cette fois désaffecter le local.
Alors précisément, en fait, là, si le vote est positif, hein, vous me donneriez l'autorisation de solliciter l'avis de M. le préfet de l'Oise pour la désaffection. Donc, c'est un avis pour la désaffectation d'une classe de l'école maternelle.
Et pourquoi pas garder la salle qui est actuellement ? Je ne vois vraiment pas où est le problème, là. Ce n'est pas parce que la CCBA s'en va qu'on ne garde pas le local.
Michel l'a dit, à terme, on pense. L'orientation, ce serait de vendre le bâtiment. On ne va pas tout brader non plus.
Hein. Mais qu'est-ce que... Attends, on a ce... C'est intéressant comme discussion, d'ailleurs. On a ce local, il va être vide.
Le local de l'ancienne de la CCB.
Hein. Tu parles de moi, je parle de la salle du fond.
Non, mais après, c'est un ensemble cohérent.
Oui, d'accord.
C'est un ensemble cohérent.
À terme, vous voudriez tout vendre.
Enfin, vous voudriez, c'est des décisions qu'on discutera.
Le logement du gardien de police, tout.
Ah bah, à terme, ça pourrait être, effectivement, d'envisager la vente de l'ensemble. Sachant que notre agent de police va prendre probablement une retraite d'ici quelques temps.
Mais
il n'y en aura longtemps pas.
Ah, mais il n'y aura pas forcément un logement.
Ah, l'idée, c'est quoi en faire, quoi. Parce qu'aujourd'hui, si on veut faire quelque chose là-dedans, il faut remettre aux normes. C'est-à-dire qu'il faut mettre un ascenseur. Il faut mettre un ascenseur, il faut remettre... voilà, le problème, il est là.
C'est... Elle veut dire qu'en fait, on se sépare de tout le patrimoine de la commune.
Non, mais c'est pas... D'abord, on ne se sépare pas du patrimoine.
C'est vrai que quand moi, je prends un peu la partie de ce qu'elle dit, par rapport à différentes générations, on a quand même une nostalgie. Ouais, ça fait un peu peur de
je suis d'accord avec toi, mais aujourd'hui, qu'est-ce que tu vas en faire? Parce qu'il faut entretenir aussi.
Qui peut louer un bâtiment comme ça où il n'y a pas d'accès, si il n'y a rien au rez-de-chaussée?
Parce que si demain vous trouvez une solution, ou alors on laisse fermer le bâtiment et on attend qu'il tombe. Voilà, alors il y a aussi cette solution-là.
Je vous rappelle.
Attendez. Et on n'en est pas là, hein. Mais faut quand même le prévoir. Quoi.
Non, mais la question de Lisiane, est, voilà, on l'entend et on en parle. Il y a Nicolas qui voulait poser une question. Monsieur Galczynski, pardon.
Si un jour il y a une. On doit rouvrir une place. On n'a pas les mêmes compétences que toi. On aura plus. Alors, cette salle.
Juste, c'est vrai que ce que tu dis, c'est intéressant.
S'il vous plaît.
On va vraiment vers une baisse significative des effectifs. Des effectifs, pardon. Là, le fait d'avoir fermé et d'avoir eu 10 enfants supplémentaires le jour de la rentrée, la veille de la rentrée, nous permet d'être à l'équilibre, voilà ce qu'ils appellent l'équilibre, c'est-à-dire qu'on est à 27, un peu plus de 27 de moyenne par classe, malgré les 10 inscriptions de dernière minute. Et la projection qu'on fait dans les 3 ou 4 ans qui viennent, puisqu'on a la naissance, il y a une année, notamment en moyenne section aujourd'hui, parce que c'était le débat qu'on a eu au conseil d'école, on va faire par exemple à la rentrée prochaine, en septembre 2017, on perd, enfin, je n'aime pas le terme, mais il y a 57 enfants qui vont quitter la maternelle pour aller vers la primaire. Donc on fait moins 57 et on ne fait normalement que plus 40 de l'autre côté. Ah oui, on repère encore 15 enfants.
Mais donc il y a peu de chances que cette salle-là soit utilisée.
Cette année, au final, on a
et
perdu.
Et l'année d'après, le phénomène est plus impactant encore puisqu'on va perdre, je crois que c'est une soixantaine d'enfants et on est dans le même cas de figure. Donc on va se prendre encore deux années de suite. Donc les effectifs vont plutôt aller.
Et quand bien même si ça remontait, on va avoir 50 membres.
Et je vous rappelle que la classe qui est fermé cette année aura un impact forcément dans les 3 ans sur les primaires. Ça veut dire qu'il y aura forcément à un moment donné une primaire en moins. Il faut l'avoir en tête.
Sauf si effectivement sauf on a si, la population qui arrive sur Berberie. Oui. Enfin, ça c'est difficile à prévoir.
Aujourd'hui, moi, si juste comme élément, hein, il est clair que. D'abord, cet ensemble demande un investissement important aujourd'hui, ne serait-ce qu'en termes de couverture pour tous les bâtiments, en termes d'aménagement pour répondre à l'accessibilité du local de l'ancienne mairie, là, je ne vous en parle pas, c'est encore plus important. Ensuite, l'élément, c'est que de toute façon, les dotations vont continuer à baisser. Et pour revenir sur la question qui a été posée tout à l'heure, quelle que soit la personne qui, en mai 2017, sera à l'Élysée, les dotations des communes continueront à baisser, plus ou moins vite en fonction de la personne, mais elles continueront à baisser, pas se faire d'illusions là-dessus. Donc aujourd'hui, la maîtrise de notre budget de fonctionnement, c'est absolument essentiel pour l'avenir, en fait, hein. Donc, en termes de patrimoine, alors je comprends l'aspect sentimental, hein, je comprends tout un tas de choses, surtout quand on y a travaillé un certain nombre d'années aussi, ça compte, hein, et c'est normal, c'est pas à mésestimer. Néanmoins, en termes de patrimoine, on a quand même le château d'Aramon aujourd'hui, dans lequel on fait d'ailleurs des investissements pour bien l'entretenir avec son parc. Je pense que ça, c'est un vrai patrimoine communal et c'est une vraie chance pour la ville de l'avoir. Derrière, en termes de patrimoine communal, on a quand même construit une cantine, hein, ça en fait partie.
Ça ne fait pas partie du patrimoine, la cantine.
Bah,
c'est patrimoine, quoi. C'est tout ce qui était avant.
Non, c'est bien.
Si tu veux comparer, par exemple, à la CCBA, la CCBA, c'était quand même quelque chose.
Oui, mais l'ancien bâtiment de la CCBA, c'est pour plus cher de le mettre aux normes que d'en fabriquer un, ça sera un
peu plus cher. Oui, mais dans ces cas-là, on vend tout, et puis comme ça, on est tranquille.
C'est pas ce qu'il dit.
Moi, je vois que petit à petit, on vend des trucs comme ça, car il y a un moment.
Tiens-toi, t'es pas vendu, ton gros.
Qu'est-ce que tu fais? C'est vrai, dans cette maison, on peut vendre.
Je ne sais pas, qu'est-ce que des choix faits. Tu le vends, mais tu le vends, qu'est-ce qu'il va faire?
Il peut être préservé.
Parce qu'aujourd'hui, c'est un truc à faire. Le marché ou le local, là, je suis désolée, mais
on en a, je veux dire, il y a la toiture, tout est en ruine. Et je veux dire, ça fait des années. Et pourtant, c'est bien notre patrimoine. Donc voilà. Je pense qu'il y a des choix un peu à faire. C'est compliqué. Hein.
En termes de patrimoine.
On a des compétences aussi pour.
Alors. En termes de patrimoine, pour revenir là-dessus, on a quand même quelques bâtiments. Hein. On a le centre social, on a la mairie, effectivement, elle a été rénovée. Enfin, c'est, de toute façon, c'est notre patrimoine. On a aussi les ateliers municipaux. Moi, je pense que la ferme Mornin, c'est aussi un vrai patrimoine. On a quand même des choses.
Et les écoles du centre.
L'école du centre, qui est, bon, du point de vue archi... Enfin, voilà, c'est un bâtiment qui a bah, l'église, évidemment, le presbytère.
Ben,
à mon avis, en termes de patrimoine, on n'est pas aux abois. Hein, et on ne compte pas vendre l'église demain, hein, je vous l'assure. Mais je fais un peu d'humour là, mais on compte pas. Ben, voilà, on veut se centrer au contraire sur un patrimoine qu'on puisse entretenir.
Non, mais c'est ça. Moi, je pense que l'objectif, c'est ça.
Exactement.
C'est un des biens qu'on utilise et qu'on entretient.
Son propre
moi, je dis qu'il faut qu'on se pose une sérieuse question. Qu'est-ce qu'on peut en faire? Et puis, tu vas faire un sujet intéressant. Faut pas dire de la bouche en blanc comme ça.
Oui, bah, des idées.
Oui, on le vend. Voilà.
Un ascenseur déjà.
Non, mais ça peut aller très vite, tu sais.
Mais quel que soit le dans ce cas-là, il faut propose des idées pour
voilà, c'est voilà, ce qu'on peut y faire. Voilà un sujet qui va être intéressant. Toi, tout le monde se
mais toi, propose des idées.
Des idées avec des ressources.
Vas-y. Ah ouais. Propose des idées.
Les idées, ça marche pas.
Michel, propose-nous des idées.
Non, il faut un ensemble cohérent.
Il y a sûrement possibilité.
Alors, donne-nous tes possibilités. Propose.
Bon, ça a au moins le mérite de lancer le débat. Là, ce que je vous propose, c'est de solliciter l'avis de Monsieur le Préfet. Bon, on sollicite l'avis de Monsieur le Préfet.
La salle qu'on parle là, au Biram, là.
Oui, c'est ça. Oui, c'était dans cette école. C'était une école.
Bien, je vous propose de passer au vote, là. Et puis, mais au moins, ça a permis d'aborder un sujet intéressant dont on redébattra, je pense.
C'est sûr.
Et je pense que certains vont réfléchir sur les idées qu'on pourrait avoir et les ressources que ça pourrait procurer.
Comment financer?
Voilà, comment financer tout ça? Donc, je vous propose de passer au vote, encore une fois, sur cette affaire qui consiste de solliciter l'avis de Monsieur le Préfet de l'Oise, hein, pour la désaffectation d'une classe de l'école maternelle. Qui est contre? Qui s'abstient? Encore, 1,
2,
3. Attendez, levez le nombre de mains qui vont bien, parce que je n'y arriverai pas. Et vous levez pour deux?
Bah oui, moi je lève pour deux.
Bah oui. Donc 4. 4 abstentions et donc 21 voix pour. Fourrière automobile. Donc là, il s'agit. Nous avions déjà une convention, hein, avec une fourrière, comme il est indiqué. Depuis que je suis là, on s'en est servi deux fois. C'est, d'ailleurs, on va peut-être accélérer l'utilisation. En tout état de cause, la convention arrive à expiration le 21 décembre 2016. Donc il me semble de toute façon nécessaire de la renouveler et d'avoir ce genre de service. On vous a envoyé la convention, alors je ne vais pas la lire, pitié. Elle est très classique. Ce que je peux dire, c'est que finalement, j'ai été étonné, c'est que sur les tarifs, il y a bien un peu d'évolution, mais vraiment pas tant que ça, depuis 2011. Hein. Les tarifs restent tout à fait... je ne vais pas dire modérés, parce que j'aimerais que ce soit encore moins cher. Mais enfin, c'est raisonnable.
C'est des tarifs conventionnés, ça?
Alors, c'est des tarifs qui sont conventionnés. Ouais, effectivement, hein, ils ne peuvent pas demander le prix qu'ils veulent, hein, il y a des plafonds. Voilà. Bon, là, par exemple, pour un enlèvement, mais vous avez dû le voir, hein, ils demandent 116,50 €. Bon. Voilà. Après, il peut y avoir des frais d'expertise, 61 €. Voilà. Des frais de garde journalière, 6 €.
Qu'est-ce que ça veut dire, il
l'immobilisation matérielle ?
Alors, c'est simplement si ils se dérangent pour enlever un véhicule, et juste au moment où ils arrivent, le conducteur arrive. Donc il dit, je reprends mon véhicule, je suis là, non, non, vous l'embarquez pas, je le reprends. Donc il doit payer 15,20€, puisqu'on a fait, là, c'est lui qui le paiera d'ailleurs, hein, c'est pas nous. Hein. Parce qu'il faut payer le déplacement. Je ne trouve pas que ce soit très excessif.
Faut pas appeler un taxi, faut appeler le dépanneur.
Ben oui, d'accord.
Bon, on n'est pas dans une situation parisienne où on fait intervenir les dépanneuses dans tous les sens. Et on, les dépanneuses, les, enfin, je ne sais pas comment ça s'appelle, les voitures qui enlèvent les voitures, donc la fourrière dans tous les sens, sachant que là-bas, ils ont un contrat, paraît-il, on n'a pas été voir, mais ils sont rémunérés, etc. Là, c'est au tarif qui va bien, c'est tout à fait maîtrisé, et on intervient quand un véhicule reste trop longtemps à un emplacement sur l'espace public, aujourd'hui. Question ? Autre question sur le sujet ?
Question, il faudrait envoyer cette dépanneuse-là dans le square des Merlets, tout ça.
Alors, le square des Merlets, pour l'emplacement du square précisément...
Ah, pas le square même, hein, je parle autour.
D'accord. Alors, autour, je rappelle qu'une partie de... large partie de tout ça n'est pas sur l'espace public.
Si c'est privé, tu peux rien faire.
Alors, parce que moi, j'ai quand même intervenu là-haut avec un arrêté, j'ai une voiture qui n'était pas assurée, sans contrôle technique, et il a fallu qu'on gère, quoi.
Et si c'est la copropriété du bailleur, tu ne peux rien faire.
Il y a un manque à l'identité. Elle est détériorée et tout.
Sur le parking.
Bah, c'est le bailleur qui appelle la gendarmerie.
Ouais. Il y en a deux, trois, parce que le type de.
Non, non, mais il faut qu'on travaille le. On va travailler aussi ce sujet-là avec Picardie Habitat. On travaille régulièrement avec Picardie Habitat sur un tas de sujets. Là, ils viennent de mettre en place, essayer de mettre en place quelque chose pour améliorer la situation des déchets. On va voir ce que ça va donner. On va voir ce que ça va donner.
Oui, c'est une zone de stockage.
Non, mais.
Ah ouais, c'est formidable.
Moi, je regarde.
Bien qu'on les verra moins, mais ils seront toujours là.
Je regarde comment ça se passe. Là, ce que j'ai noté, c'est qu'ils étaient ramassés.
Enfin, c'est juste d'une certaine manière, on autorise. On crée un espace pour les recevoir, alors qu'avant, c'était à même, quoi. C'est tout. Ils seront mieux rangés, c'est vrai.
Je rappelle qu'on est sur le territoire de Picardie Habitat,
oui,
pour le coup.
On ne peut pas se satisfaire de ça, quand même.
On peut pas se satisfaire de ça, mais c'est déjà... on va voir ce que ça va donner. Je l'ai vu, cet endroit, dans un tel état. Aujourd'hui, j'ai vu qu'ils avaient mis ça en place, et je vois, parce que j'y passe tous les jours, que c'est ramassé maintenant régulièrement. Donc, ils ont dû mettre en place un process aussi avec des personnes. Ça s'améliore. D'ailleurs, pour continuer sur ce sujet-là, puisqu'on avance dans la confiance avec les gens, l'autre jour, il y a eu des plaintes de déposer avec des numéros d'immatriculation de personnes qui avaient déposé à cet endroit-là et qui ne faisaient pas partie des résidents. Maintenant, je ne dis pas que les résidents sont toujours tout blancs. Hein, c'est pas ce que j'ai voulu dire. Ouais, sans humour. Bon. Voilà. Je vous propose de revenir à la fourrière. Donc, question sur la convention. On passe au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? La convention est adoptée à l'unanimité. Repas de Noël. Convention de mise à disposition d'installations sportives rue des Moulins. Alors. Donc, il s'agit, puisque pour l'instant, le stade de foot n'a plus d'association de foot. On y reviendra peut-être un petit peu après au travers d'une question qui a été posée. On a vu avec les gens de Saint-Sauveur pour que effectivement nos jeunes puissent s'inscrire là-bas et pratiquer le football là-bas, ce qu'ils ont accepté. Et le fait que notre terrain soit occupé de temps en temps, c'est peut-être pas plus mal. Donc nous avons déjà les gendarmes qui y vont une fois par semaine. Comment ?
Du terrain.
Non, ils font du football.
Ils tirent au ballon, pas la balle. Tir au but. Tir au but.
Tir au but. Ouais.
Voilà, ils font du tir au but. Donc, il a été aussi, parce que Saint-Sauveur, on dit on vous prend les jeunes, etc. Mais on aimerait bien profiter au moins temporairement des installations. Donc, il y a une convention de mise à disposition qui vous a été envoyée. Par rapport à celle qui vous a été envoyée, il y a donc un certain nombre de modifications qui ont été apportées après discussion avec l'amicale sportive de Saint-Sauveur. Donc déjà l'association, il y avait un blanc, c'est l'amicale sportive de Saint-Sauveur. Le président, donc Monsieur Benoît Lemaire, agissant en vertu d'une décision du conseil d'administration, etc. Enfin ça, c'est un remplissage administratif, si j'ose dire. Plus loin, article 6, je vous fais que uniquement les modifications. Alors, il y a eu une discussion avec le président, il y en a eu une avec Madame Javelot cet après-midi pour se mettre d'accord, s'expliquer sur un certain nombre de points. Le président étant, beaucoup, un bénévole, avec pas forcément la connaissance de tous les problèmes juridiques que ça peut poser. Donc, dans l'article 6, il était marqué « La commune devra également être invitée à participer aux assemblées générales de l'association afin de pouvoir constater le bon fonctionnement de celle-ci. » Donc ça, ça reste. « L'association remettra à la commune chaque année son bilan, son compte de résultats, son budget prévisionnel, ainsi que tout justificatif financier que la commune pourrait demander. » Alors, « ainsi que tout justificatif financier », on l'a retiré parce que, en fait, l'association de Saint-Sauveur ne bénéficiera pas, au moins cette année, de subventions de notre part. Donc, on n'a pas légitimité à demander autant de détails dans les comptes. Par contre, on laisse quand même, alors c'était fruit d'une discussion, on laisse quand même, effectivement, le bilan, le compte de résultat, le budget prévisionnel, parce qu'ils sont quand même sur notre terrain. Et si jamais il y a un bâtiment qui brûle, etc., il faut savoir, je pense que ça n'arrivera pas, hein, mais et il faut quand même savoir quelle est la solidité financière des personnes qui sont en face de nous. Donc voilà ce que je vous propose, c'est de laisser ça.
Comment ça se passe au niveau des assurances ? C'est les licences qui...
Alors on va y venir tout à l'heure, un peu. Donc ensuite, il y avait un autre point qui gênait un petit peu, c'était l'article 8, où il était marqué... l'association sportive de Saint-Sauveur devait fournir à la commune un planning d'utilisation avec un mois d'avance. Alors en fait, c'est pas faisable concrètement. Parce qu'eux, ils nous disent parfois, on a des matchs qui sont décalés 72 heures avant. Donc on ne peut pas vous prévenir un mois avant de choses pour qui interviennent 72 heures avant. Donc il a été, après discussion, décidé de prendre le problème un peu différemment et de marquer, de fournir à la commune un planning d'utilisation des installations a posteriori les 1er février et 1er août. Sachant que plus loin, dans ce qui est marqué, il est bien prévu que nous, on puisse, alors ça se situe plus loin, on puisse demander à utiliser le stade pour une manifestation, pour une autre activité. C'est marqué plus loin, hein, donc ça figure bien dedans. Et l'idée, c'est effectivement de savoir a posteriori quand il y avait quelqu'un là-bas au stade. Voilà. Après, il y a, le problème des assurances, justement. Alors, le problème des assurances, il y a eu... Alors, il était marqué, l'association devra avoir souscrit les contrats d'assurance multirisque nécessaires à l'utilisation des locaux et installations et responsabilité civile pour le fonctionnement de ces activités. Donc là, c'est pas tout à fait ce qu'on va laisser. Il y a une explication, en fait. Hein. Alors, il faut bien qu'il soit assuré, parce qu'il peut y avoir un sinistre. Hein. Donc, il faut qu'il soit assuré. L'association devra avoir souscrit une assurance, alors pas multirisque, une assurance responsabilité civile pour le fonctionnement de ses activités. Cette phrase a été modifiée dans ce sens-là. Après contact avec l'assureur et discussion avec l'assureur. Discussion qui a été menée par Madame Javelot, d'ailleurs, là-dessus. Et il y a par contre un alinéa d'ajouter, un paragraphe d'ajouter. La commune renonce à tout recours envers l'association suite à un sinistre garanti au titre de son contrat d'assurance pour ce bien. L'assureur de la commune renonçant également à recours envers l'association, le cas de malveillance excepté. Donc ça, c'est une phrase qui est très juridique, j'allais dire. Donc ça veut dire que, moi, tel que je le lis là, ça veut dire que quand ça rentre dans le cadre des garanties souscrites par l'association de Saint-Sauveur, on renonce à tout recours puisque l'assurance de l'association joue.
Bien sûr.
C'est ça ? Oui. Non, c'est pas ça. Bon, alors, allez-y, madame.
L'association va souscrire une assurance responsabilité civile pour ses activités sportives. Oui. Mm-hmm. Elle ne va pas souscrire une assurance pour le bâtiment, ni incendie, ni dégâts des eaux, ni vol.
Ça, c'est le propriétaire.
Voilà. Ça, c'est la commune mm-hmm. qui le souscrit, comme pour tous les bâtiments que nous avons, avec, donc, on renonce à recours s'il y a un sinistre.
D'accord.
Sauf acte de malveillance. Ouais. Je sais pas, moi, ils oublient d'éteindre la lumière et le feu.
Là, c'est notre assurance qui paye.
Voilà.
Ce sera pour tous les autres bâtiments. Ça, c'est une garantie classique.
Voilà les modifications qui vous sont proposées. Question. Passe au vote. Qui s'abstient ? Mais
le prêt des installations, c'est à durée indéterminée ?
Non. C'est à durée, c'est écrit dedans, hein. c'est à durée annuelle. Et évidemment, c'est reconductible, mais on peut dénoncer de manière. Voilà.
On a combien d'enfants de verberie ? D'enfants ou de personnes de verberie ?
Alors, d'enfants, on en a une petite quinzaine, je crois.
Ils sont adultes, là-bas. 3 ou 4, je crois, consignés.
Ah, ça fait quand même du monde. Ouais.
Et sont encadrés par des animateurs avec des diplômés. Les animateurs sont diplômés.
Ouais. Non, c'est bien.
C'est dans le cadre d'une école de football. Hein. C'est
ouais, pas... bah, ils sont bien réputés là-bas.
Oui, ils ont une école de football. Ouais. C'est un échange de bons procédés.
Bien, je vous propose de passer au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Adopté à l'unanimité.
Qu'est-ce que je veux dire au sujet de l'histoire du terrain de football ?
Alors j'ai une question diverse après, donc on va y revenir à ce moment-là. J'ai une question diverse sur le sujet, sur ce que tu viens d'évoquer. Hein? Donc on va épuiser d'abord les sujets là. Repas de Noël pour les personnes âgées. Alors
pour les vieux.
Monsieur le Président de séance, bon, j'expose à l'Assemblée que les personnes âgées de plus de 66 ans ont le choix entre un colis de Noël ou la participation à un repas offert par la commune. Dans certains foyers, une des personnes du couple n'a pas encore 66 ans et ne peut donc pas bénéficier du repas alors que son conjoint souhaite y participer. Donc ce qu'on propose à l'Assemblée, c'est de fixer une participation pour la personne en question. Cette participation, le montant de cette participation étant égal au prix coûtant du repas facturé par la société qui a reçu commande du repas. Autrement dit, s'ils le décident, ils viennent en couple, monsieur ou madame qui a moins de 66 ans. Donc le conjoint paie le repas au prix coûtant. Il bénéficie évidemment parce qu'il y a toujours une animation, de la musique, etc. Donc ça, effectivement, il en bénéficie comme tout le monde. Et puis il passe le moment du repas avec tout le monde. Mais je trouve quand même normal de demander, puisqu'après 66 ans, le prix du repas. Et puis comme ça, ça permet effectivement de. C'est aussi délicat pour une personne qui est en couple et qui dont l'un n'a pas 66 ans d'aller seul au repas. Enfin, c'est pas très sympa. Donc on propose cette solution-là. Question ? Commentaire ? Oui.
C'était 66 ans déjà, non ?
C'est à partir de cette année, c'est 66 ans, c'est ça ?
Oui.
Odile, Madame l'adjointe à l'animation et à la culture.
Ce qui avait été vu en commission.
D'accord, mais la commission, excusez-moi, commission, ça donne un avis. C'est le conseil qui décide. Donc, je ne me souviens pas, en fait, qu'on ait délibéré. Donc, c'est pour ça que je me souviens.
Non, on n'a pas délibéré là-dessus.
Ça, je ne me souviens plus.
Je peux vous dire qu'on n'a pas délibéré là-dessus. Alors maintenant, est-ce qu'il faut une délibération ?
Bah, oui, quand même. Ce n'est pas une personne ou une commission de décider, il me semble.
Je ne sais pas.
Quand même, par principe, ça me semble quand même normal.
Je sais pas.
Qu'est-ce que vous en pensez ? Bah oui, hein. Tout à fait.
Bah, c'est pas grave, là, on est très bien, on peut tout à fait le mettre modifié dans ce sens-là.
Pardon ?
On peut modifier la délibération dans ce sens-là, c'est-à-dire qu'elle a deux volets. Maintenant, la délibération, c'est de porter effectivement l'âge à 66 ans pour les personnes, pour le colis et pour le repas, et dans un deuxième temps, de fixer la participation, enfin, comme je viens de le dire.
Non, ce point-là, si je peux me permettre, sur la question de l'âge, n'était pas à l'ordre du jour, ne faisait pas partie du rapport qu'on nous a envoyé, donc non, je ne pouvais pas le mettre.
Bon, ok. Bah, on le mettra au prochain conseil municipal. Voilà. Néanmoins, oui.
En fait, en commission, l'idée, c'était que l'âge de la retraite reculait, donc l'âge du colis et du repas reculait aussi.
Non mais l'idée est très bien, mais encore une fois, c'est pour la commission de décider.
On est d'accord. On est d'accord. Donc on passera ça de toute façon en délibération en novembre. N'empêche que ça, là, la délibération que je propose, on peut tout à fait la prendre. Alors on peut la tourner de telle façon qu'on ne marque pas 66 ans, mais on marque un âge inférieur à l'âge requis.
Aujourd'hui, c'est 65 ans.
On adjoint la commission, la délibération.
On peut faire comme ça aussi. Aujourd'hui, on
délibère celle-là, puis on
le mois prochain. Très bien. Donc là, on prend la délibération avec 65 ans.
C'est déjà 65 ans.
Non, mais on prend la délibération.
Repas de Noël,
la repas de M. Michel a évoqué, le repas.
Ce qui est noté, il faut mettre noter 65 et non pas 65.
Voilà.
Il y a des gens qui, ceux qui ont 65 ans.
Oui, mais ils y vont toujours. Ceux qui avaient 65 ans qui allaient au repas.
Ça ne change pas le problème.
Ah oui, ça n'arrive pas.
Là, c'est pour les.
Pour les nouveaux.
C'est pour les personnes qui n'ont pas l'âge.
Pour
les nouveaux. Celui qui a 65 ans aujourd'hui.
Oui. Un officier migra la prochaine.
Non, là, là.
On peut tout à fait la journée.
C'est difficile.
On peut la journée, puis on va passer tout à la prochaine.
On la joue ? Pas bien. Allez, on la passera au conseil suivant.
Ce sera plus clair.
Questions diverses ou informations maintenant ? On fait quoi en premier ? Questions diverses ou informations ?
C'est ce que j'ai dit.
Juste le rapport annuel du SNV. Alors, on peut le dire avant. Hein. Donc, à titre d'information, on a reçu, bon, il y a un peu plus d'un mois, hein, le rapport annuel 2015 du SMVO. Donc dans le rapport annuel 2015 du SMVO, on énonce un certain nombre de faits intéressants. Il est évidemment à la lecture de tout le monde. Aujourd'hui, il annonce que, typiquement sur quelques points, donc on est sur le SMVO, la contribution des adhérents, évolution 2007-2015, en euros courants, moins 3%, en euros constants, moins 14%. Donc c'est un organisme qui marche bien, hein, qui est à la pointe de ce qui se fait dans tout ce qui est domaine de recyclage. Et nos collectes sont magnifiquement assurées par cet organisme. Ce qu'on enregistre comme phénomène, mais ça c'est valable dans toutes les déchetteries, c'est qu'il y a un recul dans toutes les déchetteries entre 2014 et 2015. des fréquentations. Bon, c'est une observation du SMVO.
C'est lié à quoi, la baisse des travaux dans les maisons?
Là, j'ai pas d'explication. J'ai pas d'explication. Alors, si, il y a une explication, peut-être en partie, c'est que on collecte des choses qu'on ne collectait peut-être pas avant, notamment en recyclable, dans les plastiques ou ces choses-là.
Il y a la mise en place de la carte aussi.
Oui.
C'est que certaines personnes ne vont plus aux déchetteries.
Ouais.
Voilà.
Pour ailleurs,
mais
dans
les
forêts. Bah,
je sais pas,
mais
pas
bien dans les forêts. Ouais. Moi, j'ai jamais été limité en nombre de passages.
Normalement, c'est 50 passages.
Moi, c'est pas. Enfin, je les ai jamais dépassés.
Voilà, ça,
c'est ça. Ça, j'ai fait une fois.
Et ça, tu peux le savoir.
C'est quoi, c'est à l'année? C'est un par domaine.
C'est large, en moyenne.
Bon, je propose de revenir au cœur de la discussion. Sur le SMVO, il y a encore un point intéressant, c'est la fameuse base logistique de Ververie, donc qui va se situer maintenant à Flamme Espace. Hein, on a parlé déjà de cette affaire-là il y a quelque temps. Donc effectivement, ils ont racheté l'endroit. Ils viennent d'ailleurs de lancer le marché, qui est relatif au réaménagement de cet endroit. Ils nous ont présenté le réaménagement. Alors, ils refont tout ce qui est enrobé là-bas. Alors, c'est pas de l'enrobé banal, parce qu'il faut que ça tienne les poids lourds. Ils créent aussi des parkings alvéolés. Ils traitent les eaux pluviales et ils mettent en place un bassin pour les eaux pluviales. Et ils mettent ce qu'on leur avait aussi demandé, c'est-à-dire tout un traitement paysager autour pour que ça améliore l'entrée de ville. Donc ça, ils ont fait les études et c'est en cours d'être réalisé. Pour l'enrobé, ce qui est prévu, c'est que la commission se réunissent le 9 novembre. Donc ils auront décidé, eux, le 9 novembre, qui fera les travaux. Donc ça va aller vite derrière. Et après ça, les plantations devraient intervenir avant le printemps, quoi. En janvier, février, ils vont faire les plantations. Et ils ont ambition de déplacer leurs camions, qui sont déjà sur Ververie, de les déplacer en février, en gros. Sachant qu'on a profité de cette discussion qu'on a eue pour discuter aussi du passage des poids lourds du SMVO dans Ververie. Et au final, il n'y aura plus dans Ververie de poids lourds, enfin de ces bennes-là, de ces camions-bennes, pardon, qui transportent les bennes des déchetteries, en fait. Hein. Il n'y en aura plus ni le matin, ni le soir. Alors, a priori, il n'y en a plus depuis le 6 octobre. Ni le matin, ni le soir, uniquement dans la journée vers midi, parce que là, il y avait un problème technique. Mais donc en fin de matinée, voire en début d'après-midi, sachant que tout ça concerne au maximum 12 camions, mais en tout cas, ils passaient avant de bonne heure le matin, puisqu'ils prenaient leur service à 5 heures du matin. Ils ont aussi des équipes qui roulent, donc ils terminent tard le soir, mais de bonne heure le matin et tard le soir, ils ne passent plus dans Ververie. Donc on a, au passage, négocié cette affaire-là avec eux. Voilà, ce qu'ils ont accepté. Ça me semble un bon compromis pour tout le monde. À la CAR, il y avait un quai de transfert qui a été mis en place il y a quelques années, mais qui appartient au SMVO, toujours. Et ça ne sert plus, ce n'est plus utilisé. Ils ont changé de méthode de transport pour des raisons économiques. Maintenant, le détail, il faut poser la question au SMVO. Voilà.
Ah oui, parce qu'en fin de compte, c'est de l'argent gaspillé,
cette histoire. C'est pas du carburant, il remonte, ça ne sert à rien.
Non,
c'est parce que du carburant, ils ont jamais investi pour la
Alors, je n'ai pas les détails de l'opération. Il est donc extrêmement difficile que je commente ça. C'est l'affaire du SMVO. Mais au passage, oui, c'est notre argent aussi, le SMVO.
Donc, lui, il pourra
Parce que là, c'est l'ARPE qui installe le SMVO.
Non. Non. C'est le SMVO, c'est une entité, c'est un syndicat dans lequel il y a des représentants. Je rappelle qu'au titre de la communauté de communes, il y a 3 représentants au SMVO. Enfin, il y avait 3 représentants au SMVO. Au titre de voilà, il y a toutes les intercommunalités qui font partie du syndicat mixte de la Vallée de l'Oise sont représentées au conseil, à l'assemblée délibérante du SMVO, et c'est là-bas que se passent les choses. Il n'y a pas que le SMVO, c'est pas l'ARC. C'est d'ailleurs bien plus large que ça. Non, alors c'était pas le département. Justement, l'autre information, on en a aussi un peu parlé, c'est qu'il y a un regroupement. Il y a un regroupement entre le SMVO et le CIMOV, donc qui est maintenant effectif. Et d'ailleurs, on a voté en communauté de communes l'adoption du nouveau statut du SMDO, donc Syndicat Mixte Départemental de l'Oise, qui maintenant a pris effet. Et d'ailleurs, effectivement, là, nous n'avons plus que 2 représentants pour les 3 mois qui restent à courir. Puisque derrière, ce sera l'agglomération de la région de Compiègne, enfin la nouvelle entité d'agglomération ARC plus CCBA qui sera représentée. Voilà. Autre question sur le SMVO. Indépendamment de l'affaire du quai de transfert que je ne maîtrise absolument pas, le SMVO, d'un autre côté, c'est quand même un organisme, enfin, pour moi, ce que je peux voir, mon avis, après, qui est bien géré, qui est à la pointe de ce qui se fait et qui a permis, effectivement, de faire les collectes à moindre coût. Aujourd'hui, on a quand même beaucoup de choses en recyclable. Je pense que, hors du SMVO, il n'y a pas beaucoup d'organismes qui soient aussi avancés dans tous ces domaines-là. Ce qui a permis, d'ailleurs, de bénéficier de beaucoup de subventions. Parce qu'effectivement, quand on est les premiers, on bénéficie en général de subventions dans ces affaires-là. Bon. Questions sur ce point-là? Non? Bien. Puisqu'on a parlé un peu des camions, deuxième information. Je ne sais plus si on en avait parlé ou pas. En tout cas, on a fait pas mal de réunions avec la sucrerie Chevrières et aujourd'hui, enfin Grand Fréneau à Chevrières, et aujourd'hui la campagne de betteraves a démarré depuis le 21 septembre. Pour moi, sur Verberie, ça se passe bien pour l'instant. Si jamais c'était pas le cas, faites-moi remonter. En tout cas, l'autre jour, on a été à 5h30 du matin à voir passer les camions pour voir comment ça se passait quand ils circulaient dans Verberie à leur prise de service. Puisqu'on leur avait demandé de ne pas passer avant 5h30 d'ailleurs. Derrière, il y a un certain nombre de mesures qui ont été prises. Sur Verberie, la sucrerie a installé un bonus-malus spécifique pour les poids lourds qui traversent Verberie, enfin, les poids lourds de la campagne betteravière, soyons précis. Donc pour l'instant, ça a l'air de plutôt bien se passer. Maintenant, il faudra voir si ça tient jusqu'à la fin de campagne. Voilà, il y a eu un vrai travail de fait, hein. Il y a eu des articles qui ont été faits là-dessus, des engagements pris. Nous, on a participé à 4 réunions, une en avril, une en août avec la sucrerie, et 2 en septembre où on a rencontré l'ensemble des transporteurs, puis une autre réunion où on a rencontré spécifiquement les transporteurs, les chauffeurs, les conducteurs des véhicules qui traversent Verberie. Si jamais il y a des choses qui se passent mal, faire remonter, si possible avec les numéros qui sont sur les camions, hein, mais faites remonter tout ça. Voilà pour les informations. Maintenant, on avait un certain nombre de questions diverses. Donc, Madame Lisiane Grosbon a posé une question sur d'abord, où en sont les négociations pour l'échange de terrain entre le diocèse et la commune. Pour l'instant, on n'a pas avancé sur le sujet. Très clair. Comment ? C'est pas le statu quo au sens où on dirait que la situation est bloquée, pas du tout. Simplement, par défaut de temps, on n'a pas avancé sur le sujet. Hein, on est quand même très, très pris par d'autres affaires, dont le chantier de la rue de la République qui nous occupe quand même pas mal de temps. Alors, deuxième question, est-ce qu'un élu peut déjeuner à la cantine et quel serait le prix du repas ? D'autre part, le nombre est-il limité et quels sont les critères de sélection ? Alors, on a débattu de ce point au précédent conseil municipal. Non,
justement, on avait parlé, j'avais demandé si un élu pouvait manger, je n'avais pas eu la réponse. C'est pour ça que je pose la question.
Alors, il me semble,
c'est non. C'est même Madame Javelot qui avait apporté la réponse. Je crois.
Il me semble que voilà. Ce qui a été dit, c'est...
Donc, les élus ne peuvent pas.
Attends. On va être plus précis que ça. Il n'est de toute façon pas possible de faire rentrer la catégorie élue dans la délibération. Non, attends, je vais plus loin que ça. Maintenant, il se peut que parfois des élus soient invités par API, parce que là, c'est, dans ce cas-là, c'est sans facturation. Mais quand je dis ça, je ne dis pas que les élus vont se balader et vont à la cantine. Je dis simplement qu'à un moment donné, on peut recevoir quelqu'un qui dit « je veux voir la cantine », comme ça s'est passé il y a peu de temps, ou d'ailleurs l'adjoint aux affaires scolaires et l'élu référente à la cantine ont mangé à la cantine, avec la déléguée départementale désignée par l'éducation nationale et qui voulait voir comment se passaient les repas des enfants à la cantine. Donc c'est donc dans un cadre exceptionnel. D'accord. C'est effectivement dans ce cas-là invité par API qui le fait d'ailleurs gentiment. Donc ça ne nous est pas facturé. Quand tu demandes quels sont les critères de sélection, il est tout simple. C'est simplement en fonction de la personne qui y va, c'est la fonction. C'est-à-dire là, c'était la déléguée départementale à l'éducation nationale nommée par l'inspecteur et tout. C'est donc la référente de la cantine et l'adjoint aux affaires scolaires qui ont été... déjeuner à la cantine avec elle. À un moment donné, on avait reçu aussi une conseillère départementale, la vice-présidente en charge de tout ça, de l'environnement. Et c'est pareil. Et, bon, voilà.
D'accord.
Voilà, c'est dans ce cadre-là, dans le cadre du travail, en fait. Hein, soyons clairs. Voilà la réponse que je fais à la question.
C'est pas en cours, c'est niais.
Non, mais est-ce que ça y est, les employés communaux mangent à la cantine ?
Non, nous avons voté que le début, c'était le 3 novembre. Il faut se doter quand même des matériels, etc., et donc pouvoir lancer ça. Ensuite, j'ai eu des questions de Madame Dominique Coulet. Donc la première concerne le coq sportif. Où en est-on de la transparence des comptes ? Alors, c'est un sujet sur lequel on n'a pas vraiment avancé pour l'instant, ne serait-ce que parce que, de toute façon, nous n'avons aucun droit à accéder aux détails des comptes. Voilà. Ouais, si on veut voir la transparence des comptes, c'est que le banquier me donne la liste de ce qui a été, perçu, comment, dépensé, etc. Les lignes, toutes les lignes. Aujourd'hui, on n'a aucun droit à accéder à ça. Le président du coq sportif n'a toujours pas démissionné, d'accord, en dépit de ce qu'il avait dit. Donc on en est là pour l'instant. Par contre, on s'est renseigné, puisqu'on n'avait versé qu'une partie de la subvention, je rappelle, sur notre capacité à ne pas verser l'autre partie. Allez voir si juridiquement c'était possible. Juridiquement, c'est possible. Donc, de ce côté-là, voilà.
Ça doit être voté ou c'est...
Comment ?
Ça doit être voté en conseil.
Ah, ça, il faudra une délibération, tout à fait.
Ça, il faut le mettre au prochain conseil.
On n'est pas non plus dans l'urgence. On a jusqu'au mois de décembre, mais effectivement, il va falloir le mettre au conseil. D'accord. Voilà, et finalement, sait-on ce qui a conduit le club dans cette impasse ? Alors, moi, je vais vous donner mon sentiment, c'est que... De toute façon, il y a eu une mauvaise gestion. Ça, c'est incontestable. Maintenant, je ne peux pas aller plus loin pour l'instant. Et puis, il y a un deuxième fait. c'est qu'à un moment donné, ils se sont isolés, il y a une absence de contact en dépit de nos relances. Et d'ailleurs, ça peut être attesté de différentes manières, puisque dans le manque de contact, on a eu des témoignages extérieurs qui, eux, ont affirmé qu'ils n'arrivaient plus non plus à avoir de contact. Et puis, quand on a contacté le district Oise de football, il était exactement dans la même situation. Donc, nous étions tous dans la même situation.
Puis, il y a aussi, enfin, moi, j'ai entendu les échos que la baisse de subvention qu'on avait faite vis-à-vis du club était en partie liée à ça. Or, la baisse de subvention, il faut savoir que, justement, le rapprochement qu'on a fait avec Saint-Sauveur, on s'est aperçu qu'un club de Saint-Sauveur, 270 licenciés, touche 7000 euros de subvention. Voilà. Verberie, le coq sportif, avait 70 licenciés et perçoit cette année 8000 euros de subvention.
Aurait dû percevoir
8000 euros de subvention. Donc, voilà. On s'aperçoit que même en ayant aujourd'hui baissé les subventions, le club touchait beaucoup plus que d'autres clubs qui faisaient ce qu'il fallait pour s'en sortir.
Et voilà. En plus, à Saint-Sauveur, ils ont une école de foot pour les enfants.
Non, mais enfin, ça rentre dans le cadre de leur budget,
nous,
ça.
Pas le même...
Le président, il ne vous a jamais recontacté pour...
Non.
Je suis allée chercher, le voir et... Il m'a dit oui, je vais faire ma lettre de démission.
De toute façon, ça règle le problème de trous financiers quelque part, qui démissionne ou pas, de toute façon, aujourd'hui.
Enfin, voilà, la question a été posée, voilà les réponses que je fais aujourd'hui à Madame Poulet. Il y avait une deuxième question qui portait sur les peintures sur le transformateur face à la cantine ou ailleurs dans la commune. Alors, sans remettre en cause l'idée ni le talent des artistes, pourquoi n'y a-t-il eu aucune concertation concernant le sujet de la peinture ? Si je pose cette question, c'est que cela suscite des controverses, je suppose, chez les riverains. Il semblerait, après renseignement, que personne ne soit concerté, que l'accord n'émane que d'une seule personne. Est-ce démocratique ? Donc, je laisse la parole à Madame l'adjointe à la culture et à l'animation.
Alors, il y a deux choses. Il y a tout d'abord la peinture dans les abribus. Ça a été fait l'année dernière. On en avait parlé en commission culture-animation. Il faut savoir que ces abribus ont été graffés par un artiste graffeur qui est un garçon indépendant, qui nous a fait ça bénévolement. La ville n'a fait qu'acheter les bombes de peinture. Et comme tout artiste peintre, eh bien, c'est lui qui est à même de définir ses couleurs, son sujet, et on n'a fait qu'apporter le support. Concernant le transformateur électrique, là, ça ne s'est pas du tout passé de la même façon. C'est pour répondre au conseil régional dans le cadre des journées d'artistes. Un groupe d'artistes de notre région a décidé de participer. Ils ont été retenus et nous avons choisi le transformateur comme étant le support. Mais pour tout le reste, c'est un dossier qui a été déposé au conseil régional. C'est une commission du conseil régional qui a donné son accord et qui a accepté le projet défini par les artistes. Là, à part le près du mur, nous n'avons pas d'action particulière. Il faut préciser quand même que M. Pradou, l'architecte des bâtiments de France, a validé le projet également.
Il faut dire que dans les abribus, c'est joli, ça représente quelque chose. Tandis que là, on vous demande de... Mais dans les abribus, c'est juste.
Oui, alors là, c'est ce que je te dis, c'est le sujet a été défini par l'artiste peintre, validé par le conseil régional, et nous.
On aurait pu bloquer. Hein.
Je me suis arrêté, on m'a dit que c'était un ciel de Picardie.
Ouais.
Un ciel de Picardie.
C'est très connu, un ciel de Picardie.
Ouais. Je me suis arrêté voir.
Alors toi, tu as fait le tour.
J'ai fait tout le tour.
Il y a un chat noir. Alors maintenant, c'est, là aussi, c'est très controversé. Il y a des personnes qui aiment, il y a des personnes qui n'aiment pas.
Pour
c'est comme
quelle
c'est pour tout ce qui est artistique, c'est comme ça.
C'est
voilà.
Non, mais il faut dire que dans les abribus, il y a des thèmes, c'est très joli. Il faut reconnaître que les abribus, c'est très joli. Là, c'est très différent.
C'est plus innovant.
Les abribus, ils appartiennent à la commune ou ils sont toujours en location à la commune?
Pardon ? Les abribus appartiennent à la commune.
C'est sûr.
Patrimoine. Ouais.
Est-ce que c'est sûr ?
Michel n'a pas peur.
Est-ce que c'est sûr ?
Non.
C'est pas la commune qui les a.
Est-ce que c'est sûr ?
C'est une société externe qui a installé les abribus.
Est-ce qu'on loue les abribus ?
Ils sont en location.
Non, mais c'est normal.
La location continue. Est-ce qu'ils appartiennent à la commune ou ils sont toujours en location ?
Non, pas de location pour les abribus. Ah bon.
Comment ? Il y a encore un doute, mais Madame Javelot, un doute.
Comme quoi que ça appartient à la commune, mais j'avais lu ça.
Michel, des fois, je me demande où tu vas chercher tout ça. Franchement. Des fois, je me dis...
Non mais, moi, oui, je veux dire que en Ile-de-France, c'est deux coups qui...
Oui, mais c'est...
Non mais, oui, non, mais attends,
oui, mais Michel, quand on te dit une fois, deux fois, oui, on est sûr.
Et c'est comme défini le métro.
Non, moi, ce que je veux dire,
que si on a grappé des faits qui ne nous appartiennent pas...
Oui, mais non, rassure-toi, ça va. Par contre, c'est vrai, Madame Javelot propose de peut-être... On peut peut-être nous les louer.
Ouais, ouais.
Monsieur Guest, c'est-à-dire que dans certains endroits,
oui,
on
c'est
les
ça.
Délègue.
Oui.
Délégation, par exemple, de co.
Voilà. Mmh. C'est ça, exactement.
Qui existent.
Mais là, est-ce qu'on est sûr qu'on n'a pas un contrat de co caché?
C'est une délégation contre exploitation.
Oui, oui, c'est tout à fait. Alors que là, non, c'est bien. Question,
ça va, ils sont bien. On est dans la légalité des choses.
C'est bon.
Avons-nous le droit de graffer quelque chose qui
n'existe pas? Non, ils sont à nous. Si ça avait été des trucs type de co, etc., ça posait la question, évidemment. Mais non, là, c'est à nous. D'ailleurs, personne n'est venu protester quoi que ce soit. Non, c'est à nous. Monsieur Lamy, vous aviez une intervention à faire.
Oui, non, j'entendais l'explication du support et ainsi de suite, des peintures et ainsi de suite. Et dans l'explication, j'entends nous avons décidé ça. Et la question pour moi, c'était qui nous ? Parce que pas du tout, en tout cas. Qui a décidé de mettre.
Pour les abribus ?
Non, non, je parle pour le transport.
Le transport ?
Vous avez dit,
c'est décidé,
non, c'est pas. Enfin, pour moi, c'est pas ce que j'ai entendu. Hein. C'est pas ce que j'ai entendu, mais. Je te redonne la parole, Odile.
Attends, le conseil régional, excuse-moi. C'est pas lui qui choisit quel endroit de la commune on doit peindre. Donc, la question pour moi, c'est qui.
Non, mais on aurait.
Décidé ici du site qu'on devait peindre.
On aurait pu, effectivement, bloquer. Oui, mais pas. On aurait pu bloquer le projet.
Non, mais je ne parle pas de bloquer le projet.
Ah bon.
Je ne parle pas de ça, ce n'est pas le problème. Je ne m'oppose pas au projet en tant que tel, il n'y a aucun souci là-dessus. La question, c'est quand j'entends nous avons proposé, nous avons décidé du site, la question, c'est qui.
Alors, c'est l'artiste peintre qui cherchait un mur. Pour y mettre son... Enfin, qui cherchait un mur comme étant un support de la peinture.
Oui, d'accord. Voilà.
Et à partir de là, il fallait trouver effectivement un support. Donc, proposition a été faite pour ce support-là.
Qui a fait la proposition de ce support ?
Ça a été collégial avec l'artiste peintre qui cherchait...
Non, l'artiste peintre, excusez-moi... C'est l'artiste peintre, c'est pas un
élu. Oui, bah c'est nous.
C'est ce qu'il faut dire. Oui.
Oui. Maintenant, pour ce qu'il y a sur le mur, il y a une différence entre une commande et une action comme invitation d'artiste. D'ailleurs, c'est dans les termes. Invitation d'artiste, donc il a une certaine liberté. Et toute cette affaire a d'ailleurs été financée par le conseil régional intégralement.
Ça n'a aucun rapport. Mais non, c'est bon. Ma question elle est simple, on vous dit, c'est nous avons proposé ce
oui.
site, donc qui nous
c'est... Et nous on en a parlé en réunion.
Bah,
c'est
moi.
Ce qu'ils veulent entendre.
C'est l'artiste.
Moi.
Non. C'est le conseil, si c'est la.
Mais qui nous.
Qui nous. C'est la commission.
C'est la commission.
Qui c'est qui a décidé.
C'est la commission. C'est la. C'est la.
Attendez,
là, on n'est pas. Voilà. Est-ce que. Voilà, sur les abribus, on a lancé. Enfin, là, ça a été évoqué en commission. Donc, ça a été. Ils en ont parlé.
Les abribus, vous en avez parlé au conseil.
En commission.
Il y a eu une petite discussion.
Mais tout simplement parce que, aussi, sur le conseil régional, typiquement, on était sûr de rien, quoi.
Non, parce qu'on ne savait pas. Ça s'est présenté après la commission et on ne savait pas si le dossier serait accepté. Et après, quand le dossier a été accepté, il a fallu aller très vite.
Oui, bah j'ai pris la décision de le mettre sur le transformateur. Non ?
De toute façon, au départ, il n'y avait pas un projet sur URDF qui le fasse le décor.
Alors, le projet sur URDF, c'est le transformateur à côté du collège.
Ah oui ?
Avant, il n'y en avait sur rien.
Mais tout à fait. Mais on a, enfin voilà, la réalisation a été faite. Il y a eu suffisamment de publicité autour de la réalisation. On n'en a pas, on n'a pas caché cette affaire-là. On l'a pas caché.
Ça n'a aucun rapport.
Non, mais je dis simplement que oui, j'ai décidé de prendre ce transformateur. Et après, derrière ça, oui, on aurait peut-être pu en parler ici. On n'en a pas parlé ici cette fois-là. On a parlé d'un tas de choses en conseil municipal. On peut pas dire
non,
que
si
le
coin.
Oui, mais
c'est on peut. Même sujet que pour les 65.
Oui, on peut pas dire que le conseil municipal n'est pas d'information dans la ville. Je pense même que la durée en montre que le conseil municipal est très très informé de tout ce qui se passe, des décisions qui sont prises, des avancements. Sur à peu près tous les sujets. Maintenant, dans une ville de 4000 habitants, il se passe. On peut y passer toutes les nuits, si vous voulez. Alors maintenant que vous regrettiez que pour ce fait-là, il n'y ait pas eu effectivement une indication au conseil municipal, dont acte, je le prends pour moi. Mais voilà, hein, il y a aussi des tas de choses qui se passent dans ce domaine-là. Le transformateur ? Le transformateur appartient à la commune ?
Après, il y a une question complémentaire sur la question
de la peinture. J'y arrive.
La peinture, s'il vous plaît. Puisque j'ai entendu qu'à un moment donné, c'était posé la question de repeindre, ou de peindre en tout cas une partie du mur de la cantine.
Oui. Oui.
J'espère quand même que si ça avait été le cas, ça serait passé au moins en conseil.
Mais ça n'a pas été le cas.
Oui, c'est pas passé loin, donc.
C'est pas passé loin. C'est que avant de poser la question au conseil, il faut savoir si c'est faisable. Or, dans ce cas-là, ce n'était pas faisable. Donc, à partir de ce moment-là, c'était inutile d'en discuter en conseil municipal. Voilà. Très bien. Bon, ensuite, il y avait une autre question. Colis ou repas de Noël. Donc, on vient d'en évoquer une partie. Je vais de nouveau laisser la parole à Madame l'adjointe à l'animation et à la culture.
Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, en commission, nous avions discuté de ce sujet, puisque l'âge de la retraite est repoussé, on avait dit qu'effectivement, il semblait logique, en commission, de repousser également l'âge d'obtention du colis ou de participer au repas. Et effectivement, s'en est resté à la commission, on a omis de le faire voter en conseil municipal.
Bah là, on va le voter.
Donc on va le voter. Mais
déjà vérifié.
Et en commission, nous avions même dit jusqu'à 67 ans, autant faire les deux années en même temps, donc 66 cette année, 67 l'année prochaine.
Au début d'année, quand on a fait la commission finance, on n'avait pas.
On n'a pas avancé.
Alors, nous avons dit également en commission, nous avions dit également en commission que l'association Art et Culture allait faire un travail qui serait présenté dans la salle des mariages Ce serait le travail de fin d'année de l'approche de cette année scolaire. Et donc le sujet retenu, c'est un tableau de Kandinsky. Voilà aussi ce qui avait été dit en commission concernant les peintures. Et pour en terminer avec...
Alors c'est pas une peinture sur le mur, hein. C'est
non,
une
non,
peinture...
C'est une toile. C'est une toile collective des élèves du cours Art et Culture. Et pour en terminer avec la peinture, sur les transformateurs, le SE60 veut également restaurer en peignant le transformateur à côté du collège, celui qui est situé entre le collège et la salle des sports.
Ben, on lui a demandé.
Voilà, mais là, le dossier est en suspens et quand ça se fera, je ne sais pas, mais le dossier est en cours.
Alors, de toute façon, ça tombe bien puisque... concernant les vœux, donc on va appartenir à une nouvelle communauté d'agglomération. Donc la nouvelle communauté d'agglomération fera ses vœux le 6 janvier soir et elle les fera à l'espace d'Agobert. Donc de toute façon, ce transformateur, soit il y a un graffeur qui s'en occupe, soit ce sera la régie municipale qui s'en occupera, mais il est hors de question qu'il reste dans l'état où il est. Déjà depuis 2 ans, ça m'hérisse le poil à chaque fois que je passe devant. Donc il est clair qu'il sera repeint. Et puisque nous sommes sur ce sujet-là des vœux, les vœux pour la commune de Verberie, cette fois-ci, jeudi 12 janvier soir. Je ne pense pas que ça pose de problème à personne. On a choisi un jeudi soir en se disant qu'aujourd'hui la salle était extrêmement louée, donc on peut laisser vendredi soir pour la location et jeudi soir à 20h, bon c'est quand même une bonne période quoi, en début d'année. Pardon. Le 6. Nous ce sera au château d'Aramon, comme d'habitude. Bon, le reste de la question, ben, on en débattra lors du prochain conseil municipal. Bon. Donc voilà, je considère que j'ai répondu à toutes les questions qui étaient posées dans le cadre du conseil. Très bien. Plus de questions ? La séance est donc...